7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous les amis, nous sommes le lundi 15 avril et le président de la République parle ce soir à 20h. Emmanuel Macron donnera ses premières réponses au grand débat, les attentes des Français dès le journal de 7h avec Hélène Zélani. 7h40, l'édito de Jean-Michel Apathy et puis ce soir, émission spéciale sur Europe 1 autour de Mathieu Béliard. Big Bang en vue pour EDF. L'État veut renationaliser le nucléaire. Opération à haut risque, pilotée directement par la cellule de l'Élysée. Détail et explication à 7h43 avec Axel de Tarlet. 7h45, retour à Villegaillac, dans l'Aude, 6 mois après les inondations. Le coup de colère des sinistrés face à la lenteur de la reconstruction. Nous serons en ligne avec un commerçant du village. Et puis, de la pomme de terre belge cultivée illégalement dans les Hauts-de-France. Les champs agricoles sont sous-loués à prix d'or. Une pratique juteuse, mais interdite, qui empêche les jeunes agriculteurs français de s'installer. Enquête à suivre à 7h20 dans Europe 1, va plus loin. Ça, c'est le programme. On le partage ensemble. Vous sortez du lit tranquillement. Vous êtes peut-être déjà réveillé. On est ensemble jusqu'à 9h. Bon réveil à tous. Merci de nous faire confiance.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Nous sommes le lundi 15 avril. Il est 7h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Bonjour, bonne semaine Hélène Zélani.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Le qui tout double d'Emmanuel Macron, interdiction de décevoir pour le président qui annonce ce soir ses réponses concrètes à l'issue du grand débat. La déception, elle est bien au rendez-vous pour le PSG, c'est même une humiliation défaite à Lille hier soir 5-1. Et puis son nom est terriblement difficile à prononcer, Pete Buttigieg est candidat à la présidence des États-Unis, démocrate, il a 37 ans, parle 8 langues et il est marié avec un homme.
Et à 8h15, l'invité d'Audrey Crespo-Mara sera la tête de liste Europe Écologie Les Verts aux Européennes, Yannick Jadot.
Europe 1. Un clip en forme de bande-annonce, Emmanuel Macron l'a publié hier soir sur Twitter avec ce commentaire « Nous avons décidé de transformer les colères en solutions ». Le chef de l'État est donc attendu à 20h pour une allocution solennelle d'une vingtaine de minutes. Qu'en attendent les Français ? Réponse avec des Lillois au micro de Kevin Tuillier.
Si vraiment ils voulaient changer les choses, il faudrait qu'ils changent complètement de gouvernement.
Ceux qui travaillent déjà augmenté le SMIC. Moi, je touche 1200, je vis pas, je survis avec.
En tant que retraité, il faudrait quand même pas qu'ils continuent à nous massacrer. L'inflation est à 1,6 ou 7, et là, on nous a donné royalement 0,3. Là, c'est un peu exagéré.
Ce que j'ai surtout peur, c'est qu'il s'en sert pour faire sa politique à lui. C'est-à-dire qu'il choisisse particulièrement les questions auxquelles il veut répondre. Et je vous avoue que j'en attends pas grand-chose.
Ah, ce n'est donc pas gagné. Hier soir, Emmanuel Macron recevait Édouard Philippe, puis une partie de son gouvernement pour leur présenter sa feuille de route. L'Élysée promet un acte 2 du quinquennat, rien que ça. Jean-Rémy Baudot, vous avez pu échanger avec plusieurs des ministres qui étaient autour de la table à l'Élysée.
Oui, Hélène, et les ministres présents hier soir avec le président le disent. Très en forme pour l'un, combatif et déterminé me glisse une autre. En fait, tout le monde sait, ils savent tous qu'Emmanuel Macron joue très gros. En coulisses, on promet des annonces fortes et concrètes. Il y aura des changements en profondeur. Voilà ce que jure l'entourage du président qui précise, je cite, « Il annoncera des chantiers prioritaires et des premières annonces concrètes. Pas un catalogue de mesures, prévient un proche, même si le chef de l'État se s'est attendu sur le pouvoir d'achat, le social, la décentralisation ou la fiscalité. Cela fait plusieurs semaines que l'exécutif promet un effet de sidération avec les conclusions du grand débat. Seule manière, selon eux, d'éteindre durablement la contestation des Gilets jaunes. Un conseiller m'expliquait hier soir, il faut aller plus loin, plus vite, mais il faut aussi prendre la mesure de ce qui n'a pas fonctionné. L'Élysée veut croire qu'une nouvelle dynamique peut être lancée dans la durée, car ce soir, l'allocution du président ne serait qu'une étape, explique son entourage. Mercredi, fait inédit, Emmanuel Macron tiendra une grande conférence de presse et certains proches préviennent, de nouvelles annonces pourraient être faites à cette occasion. Vous le voyez, l'Élysée manie actuellement l'art du teasing avec un risque, celui d'une déception pour la saison 2 du quinquennat Macron.
Merci Jean-Rémy Baudot.
Une allocution qui sera diffusée ce soir à 20h en direct sur Europe 1 et qui sera suivie d'une émission spéciale animée par Mathieu Béliard.
Europe 1 est 7h03.
On a joué comme des débutants, constat sans appel dressé par Kylian Mbappé lui-même.
Oui, l'attaquant du PSG et ses coéquipiers ont pris une énorme claque hier soir à Lille. Défaite 5-1, soirée cauchemardesque, 2 blessés, 2 buts refusés, 1 expulsion et l'échec le plus lourd en championnat depuis l'arrivée du Qatar. Julien Froment suit ce match pour Europe 1.
Paris, qui aime tant chasser les records, se serait bien passé de celui-ci depuis l'arrivée du Qatar en 2011. Jamais le club n'avait perdu dans de telles proportions en championnat. Même les supporters lillois ne s'attendaient pas à une démonstration de cette ampleur.
Incroyable. Humiliation. Ah non, mais c'est le mot, c'est humiliation pour Paris. Je mettais Lille gagnant 2-1, mais 5-1, c'est exceptionnel.
Franchement, on n'en revient toujours pas. C'est un truc de fou.
On ne s'attendait pas à avoir 5 buts, 5-1 quand même, c'est chaud.
Pire, la dernière défaite 5-1, c'était en 2000 contre Sedan. À l'époque, Kylian Mbappé n'avait qu'un an. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Marco Verratti, a tenté de dédramatiser la situation.
Ça fait mal parce que 5 ans c'est dur. Ça peut arriver dans une saison de faire des matchs où ça peut arriver n'importe quoi et ça arrive ce soir.
Alors oui, Paris a des circonstances atténuantes avec encore 2 joueurs blessés hier soir, ce qui a eu le don d'exaspérer l'entraîneur Thomas Tuchel, qui ne sait même pas s'il pourra aligner 11 joueurs valides contre Nantes mercredi pour enfin décrocher un 8e titre décidément insaisissable. Lille, Julien Froment, Europe 1.
Et puis c'est sans doute l'un des plus incroyables comebacks de l'histoire du golf. Tiger Woods a réussi à 43 ans un exploit en remportant hier le Masters d'Augusta aux États-Unis, son 15e titre du Grand Chelem.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani, retour dans l'Aude, 6 mois après les inondations qui avaient fait 15 morts et des milliers de sinistrés. A tout de suite et bon réveil sur Europe 1.
Votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani. Vous pouvez évidemment envoyer vos commentaires sur Internet, sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Et d'ailleurs, Europe 1 a décidé de prendre des nouvelles des sinistrés de Ville-Gaillac que nous avions rencontrés il y a 6 mois, juste après ces inondations meurtrières.
Oui, inondations qui avaient fait 15 morts le 15 octobre dernier à Ville-Gaillac. Dans l'Aude, certains habitants avaient jusqu'à 3,50 m d'eau dans leur maison. Aujourd'hui, ils se battent pour obtenir des indemnisations. Reportage de Benjamin Péter.
Partout, des volets fermés, des rues condamnées par des palissades. Dans le centre-ville, à peine 11 familles habitent encore ici. C'est le cas de Patricia. Ses murs sont gorgés d'eau. Les portes et fenêtres déformées par l'humidité ne ferment mal. Et elle n'a touché que de maigres acomptes des assurances. Elle vient juste de lancer les premiers travaux avec ses économies.
J'ai aucun chiffrage, donc toutes les semaines je demande. On me dit ah oui, mais l'expert que vous avez eu vient de La Réunion, donc c'est plus long. Donc je fais l'avance des travaux parce que j'en ai assez de vivre au milieu des cartons et du provisoire. On a l'impression d'être les oubliés du village fantôme, parce qu'on l'appelle comme ça entre nous, le village fantôme.
Un peu plus loin, la maison de Pascal et Nathalie n'a pas bougé. Eux ont été indemnisés, mais 38 maisons autour de la leur doivent être détruites. Et en attendant, ils ne peuvent pas commencer les travaux.
Je suis en limite de destruction. J'ai la maison d'à côté qui doit être démolie. C'est des vieilles maisons qui sont toutes imbriquées les unes dans les autres. Et je ne sais pas comment ça va se passer. Et le problème est le suivant, c'est que je ne peux pas faire à nouveau les travaux, sachant qu'éventuellement ma maison peut être détruite, quoi.
Et si ça dure, c'est notamment que les bâtiments à démolir doivent être revendus à l'État après indemnisation et qu'il va ensuite falloir lancer un appel d'offres pour la démolition, une procédure qui pourrait prendre encore plusieurs mois. Ville-Gaillac, Benjamin Péter, Europe 1.
Et à 7h45, on repartira à Ville-Gaillac. On sera en ligne avec Gaël Coussinou, le boulanger du village.
Grève aux urgences dans 5 grands hôpitaux parisiens. Pitié-Salpêtrière, Saint-Louis, Lariboisière, Tenon et Saint-Antoine. Manque de moyens, saturation des services, agression. Les personnels réclament des créations de postes et une prime mensuelle de 300 euros. Ils seront en service minimum et porteront un brassard en grève. Mais l'accueil des patients se fera normalement. Et puis selon les informations d'Europe 1, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, va interdire l'additif E171, le dioxyde de titane, colorant utilisé dans certains bonbons, chewing-gum ou plats préparés, qui est soupçonné d'avoir des effets cancérigènes.
Hélène Zélani, on va partir aux États-Unis maintenant ensemble avec un nouveau candidat à la présidence pour 2020. Et attention, nom compliqué à prononcer.
Oui, Pete Buttigieg, un nom d'ailleurs dont il se moque lui-même, candidat démocrate. S'il était élu, il serait à la fois le plus jeune président américain, mais aussi le premier homosexuel, en tout cas inconnu encore il y a un mois. Il monte dans les sondages et crève l'écran. Il s'est donc déclaré officiellement candidat hier chez lui dans l'Indiana. Xavier Yvon était au meeting pour Europe 1.
Avant de retenir son nom, il faut d'abord apprendre à le prononcer. Buttigieg, ses supporters s'amusent à s'entraîner. Bientôt, tout le monde saura dire son nom, dit cette fan. Enfin, leur héros arrive sur scène.
My name is Pete Buttigieg, and I am running for president of the United States.
Il annonce sa candidature et déroule son CV. Fils d'immigrés maltais, étudiant brillant à Harvard, lieutenant déployé en Afghanistan, marié à un homme et maire d'une petite ville désindustrialisée du Midwest. Dans la foule, ses administrés sont ses premiers supporters.
He renewed the downtown, brought industry in.
Il a transformé le centre-ville, il a ramené de l'activité et de la vie, dit ce vieil habitant, et il va faire pareil pour l'Amérique. Quant à sa jeunesse, il a 37 ans, c'est un atout, explique lui-même Pete Buttigieg au micro d'Europe 1, en français, l'une des 8 langues qu'il maîtrise.
Notre message, c'est un message d'espoir, fondé sur l'idée que notre génération doit traiter les problèmes du futur comme des problèmes que nous partageons.
À la fin du discours, son mari Chasten le rejoint sur scène. Les deux hommes s'embrassent sur la bouche, puis saluent la foule. Une image déjà historique. South Bend, Xavier Yvon, Europe 1.
8 langues impressionnantes.
Ouais, il parle bien français. Bravo. C'était le journal d'Hélène Zélani. Merci Hélène.
La matinale d'Europe 1.
Nico Saliagas.
Il est 7h10, c'est l'heure de retrouver Martin Fenot, Nikos, comme chaque jour. Il est sur le terrain, mais où ?
Bah, c'est la vraie question.
Oui.
Existentielle presque. Et en même temps, très pratique, vous êtes où ce matin, Martin ? Bonjour.
Bonjour Nikos. Alors avant de vous dire où je me trouve, je dois d'abord vous avouer que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, Nikos, parce que j'ai suivi un événement attendu dans le monde entier.
Vous
c'était
aussi.
À 3h du matin. Écoutez. Est-ce que vous reconnaissez ?
Oui, oui, j'ai essayé de voir, j'ai vu le générique et puis après je suis parti travailler.
Le générique de Game of Thrones.
Bien sûr.
Le premier épisode de l'ultime saison de la série dont tout le monde parle, hein, a été diffusé il y a quelques heures.
Mmh.
Exactement, et moi je l'ai regardé à Puteaux, en région parisienne. C'est là que je me trouve avec des fans très très particuliers. Vous allez l'entendre, ils ne plaisantent pas avec cette série. Il y a une statisticienne et un mathématicien qui sont presque en mesure ce matin de vous révéler la fin de l'histoire avant tout le monde. Ils ont étudié les 400 personnages de la série, regardé les épisodes en boucle, recensé des milliers de données afin de prédire qui devrait mourir dans la dernière saison.
Ah bon ?
Il y a des choses qui influencent la mort dans Game of Thrones. Ça, c'est certain, la mort ne frappe pas au hasard.
On a 400 personnages et pour chacun d'eux, 20 caractéristiques pour les définir. On va voir son lieu de naissance, sa noblesse, sa richesse, ça fait 20 000 cases à remplir dans une base de données.
C'était énorme.
Et le modèle, du coup, il va associer au fait de mourir des caractéristiques.
Il peut établir un portrait robot, finalement, des personnages qui décèdent au cours de la série.
Mais c'est inquiétant, un portrait robot, mais c'est intriguant. Ça fonctionne comment, juste qu'on comprenne ?
Alors, en tout cas, pour l'instant, ça fonctionne. Ils sont en train de le tester en ce moment. Il n'y a pas eu de mort imprévue dans le premier épisode.
Mm-hmm.
Selon eux, Game of Thrones est une série tellement unique de par son univers riche et sanglant qu'elle en devient prévisible.
Il y a beaucoup de personnages qui décèdent. Donc là, on peut calculer les taux de mortalité solides. Et c'est aussi lié au fait qu'on connaît beaucoup de choses sur les personnages. Et c'est vraiment cette profondeur de l'univers qui, moi, m'a complètement saisi et happé.
C'est vrai que c'est la patte de Game of Thrones. Dès qu'on s'attache à un personnage, au bout d'une ou deux saisons, il peut mourir sans raison. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas. C'est tellement violent. Combien de temps il aura fallu pour rassembler toutes ces données ?
Alors, une année, Nico, et les statistiques de Roman Beaufort et Lucas Mélissan sont prises très au sérieux. Ils donnent des conférences cet après-midi, par exemple, à la faculté de la Sorbonne.
C'est dingue. Bon, est-ce qu'on peut savoir quand même qui va mourir à la fin de la saison ?
Ah non.
Alors, sans spoiler, tout ce que je peux vous dire, c'est que selon leur modèle, ils prévoient que les personnages les plus connus devraient survivre. Mais attention, il peut y avoir des surprises, ce ne sont que des probabilités.
Bon, il est bien le premier épisode, vous qui l'avez vu ?
Ah, il est pas mal, effectivement.
On voit les dragons, c'est ça, hein, j'ai vu des petites photos sur Twitter.
On voit deux dragons, effectivement.
Ben, magnifique, c'est déjà ça. On vérifiera la théorie de vos mathématiciens et statisticiens, en tout cas. Merci beaucoup, Martin Fenot.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre l'édito Écho avec Nicolas Barret. Lui aussi s'inquiète quand il voit les statistiques, mais ce n'est pas celle de Game of Thrones.
Et la bourse est-elle devenue folle ? Je réponds tout de suite.
À tout de suite, 7h20, des agriculteurs belges hors la loi, ça se passe dans les Hauts-de-France, car ils sous-louent des terres à prix d'or pour produire leurs propres frites. C'est un business juteux, mais totalement interdit, qui empêche les jeunes agriculteurs français de s'installer dans la région. Enquête à ne pas manquer dans Europe 1. Va plus loin dans quelques instants. Bonne matinée à tous.
Il est 7h16, les principaux titres à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
Emmanuel Macron s'apprête à donner son feu vert à la renationalisation moins partielle des activités nucléaires d'EDF. C'est une information du journal Le Parisien. Le groupe avait été privatisé en 2004. Le chef de l'État, qui prononce d'ailleurs ce soir une allocution officielle d'une vingtaine de minutes depuis l'Élysée, il doit dévoiler les chantiers d'action prioritaires à l'issue du grand débat. Football, le Paris Saint-Germain humilié à Lille. Défaite 5-1 et pas encore de titre de champion de France.
Europe 1.
On passe, Nikos, à l'édito éco avec la Société Marseillaise de Crédit, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Société Marseillaise de Crédit, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Avec Nicolas Barret, évidemment, comme tous les jours, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Nicolas, la bourse a-t-elle perdu la tête ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle grimpe partout dans le monde alors que l'activité économique ralentit. Et en général, sans être un économiste, on sent que ça sent pas bon. Ça.
Exactement, ouais. Vous avez raison. C'est vrai, les marchés boursiers en Europe, aux États-Unis, en Asie sont en hausse partout. Des hausses à deux chiffres, hein, plus 16,5% à Paris pour le CAC 40, plus 15% à Wall Street, plus 28% à Shanghai. Ça fait des années qu'on n'avait pas assisté à des hausses aussi rapides. Or, dans le même temps, comme l'a redit encore ce week-end le FMI, eh bien, la croissance ralentit partout. Il y a là donc un décalage qui ne peut pas durer infiniment, qui inquiète. On se demande si les marchés boursiers n'ont pas perdu pied par rapport à la réalité économique. En clair, si on n'est pas finalement dans une bulle.
Et une bulle qui finit souvent par éclater. Il est pour quand le crack ?
Ça, si je le savais, mon cher Nikos, ce serait formidable. Mais il y a un signe supplémentaire quand même qui inquiète. C'est un peu technique, mais vous allez tout de suite comprendre parce que dans un monde normal, vous voyez, les taux d'intérêt à court terme, quand vous empruntez à 6 mois, sont plus bas que les taux à long terme. C'est logique. Mm-hmm. Quand c'est le contraire, quand ça s'inverse, eh bien, c'est mauvais signe. À Wall Street, on estime que c'est un signe annonciateur de récession. Or, cette inversion s'est produite brièvement vendredi. Et du coup, tout le monde s'est dit, attention, alerte. La même chose, c'était produite d'ailleurs en 2008 avant la crise des subprimes. Alors certes, ouais, aujourd'hui, ça n'empêche pas ou pas encore la bourse de poursuivre sur sa lancée, mais enfin, on voit bien qu'il y a des fragilités dans le système.
Il y a des alertes, mais la bourse s'en fiche.
Et c'est exactement ça. Alors, c'est pas tout à fait irrationnel, parce que si la bourse n'en tient pas compte, c'est parce qu'elle se dit que les banques centrales qui pilotent les taux d'intérêt sont là pour surveiller tout ça comme le lait sur le feu et sont prêtes à intervenir pour éviter la catastrophe. Il n'empêche, elles ne peuvent pas tout éviter, ces banques centrales, et le grand écart entre l'économie réelle et la bourse ne peut pas durer indéfiniment. La route devient glissante, prudence.
Attention à ne pas tomber avant l'heure. Nicolas Barré, c'était l'édito Éco.
Europe 1. Nikos Aliagas.
Il est 7h18, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin, direction les Hauts-de-France, où se développe une pratique interdite, la sous-location de terres agricoles.
Et sous-louer des champs, c'est interdit. Et c'est pourtant ce que font des agriculteurs belges qui viennent chez nous pour le faire. Bonjour, Jeanne Bergaoui.
Bonjour.
Ah, ça se passe dans les Hauts-de-France et tout le monde sait, tout le monde le sait. Hein, c'est un secret de polichinelle, mais personne n'en parle. C'est tabou. Pourtant, ça se voit.
Et oui, c'est la période de plantation de la pomme de terre. Dans les champs, beaucoup de tracteurs, de matériel sont immatriculés en Belgique. Mais dans chaque ferme, on vous renvoie sur les voisins ou le village d'à côté. Et quand vous arrivez, ça recommence. On vous dit la même chose. On est à une quinzaine de kilomètres de la frontière. J'ai fini par en convaincre un de nous parler. Appelons-le Michel, la soixantaine.
Pseudo.
Il loue ses terres à un propriétaire. Il est donc en fermage. Mais cela fait 10 ans que dans son dos, il sous-loue entre 4 à 8 hectares à un agriculteur belge.
Moi, je suis tombé sur un bon belge. Donc, le belge a proposé un peu de sous-hectare, c'était des sous sûrs.
À quel tarif ?
Oh, ça, c'est sujet tabou, ça.
Alors, on entend jusqu'à 1500 euros l'hectare.
C'est un peu moins.
C'est illégal dans le code rural ?
Bon, c'est illégal, mais le propriétaire, il est quand même bien content de toucher son fermage. Hein.
Vous, votre propriétaire n'est pas au courant que vous sous-louez vos terres à un belge ?
Ben non. Du moment qu'il reçoit son fermage, tout le monde est content.
Mais qu'est-ce qu'il nous dit l'agriculteur ? C'est que tout le monde s'y retrouve, même si c'est interdit. Il est où le problème alors ?
Eh bien, c'est totalement illégal. Comme pour un appartement, sous-louer des terres à un Belge ou à un Français hein, d'ailleurs, est interdit. C'est très clair dans le code rural. En fait, le fermage est très encadré. C'est environ 150 euros l'hectare, mais les Belges vont jusqu'à proposer 10 fois plus, 1000 à 1500 euros. Et ils ciblent souvent le même profil des agriculteurs en fin de carrière qui veulent compléter leurs revenus.
Pourquoi les Belges viennent sous-louer ces terrains en France ?
Eh bien parce que la Belgique est un petit pays, elle manque de surface agricole pour faire tourner à plein ses usines de frites et de chips. Romain Kouls est secrétaire général de Belga Pomme, l'association des professionnels de la filière pommes de terre en Belgique, et il ne dément pas.
La demande augmente tout le temps. Frites surgelées, flocons, granules et chips qui sont faits avec ces pommes de terre. Et de là qu'on voit des producteurs belges apparemment actifs en France.
C'est totalement illégal, vous en avez conscience ?
C'est illégal pour qui ? Pour les producteurs français qui louent leurs terres aux Belges.
Et il a raison, hein, le plus grand risque est pris par l'agriculteur qui sous-loue. S'il est repéré, on peut lui résilier son bail. Il n'aura plus le droit d'exploiter sa terre, même s'il n'a nous loué qu'1% de son exploitation. C'est même souvent de petites parcelles. C'est d'ailleurs ce qui rend ce phénomène difficilement décelable et mesurable. Une brigade d'enquête en charge de contrôle phytosanitaire estime qu'une dizaine de milliers d'hectares seraient tout de même sous-loués dans la région.
Ça veut dire quoi ? Que les frites belges sont des frites françaises, en fait ?
Une partie, en tout cas.
L'appétit des Belges pour les terres françaises, est-ce qu'elle s'amplifie ou c'est un status quo ?
Oui, on parle de pommes de terre, mais ça existe aussi pour les endives, les betteraves, les choux de Bruxelles. Et s'il y a 10 ans, ça se cantonnait au Nord-Pas-de-Calais, près de la frontière, désormais, les producteurs n'hésitent plus à descendre en Picardie, aux portes de l'Île-de-France. Dans les syndicats agricoles, certains parlent d'une invasion, d'une stratégie de conquête des Belges. Cet hiver, Hugues Becquerey, agriculteur dans l'Aisne, a été démarché. Son exploitation est pourtant à 1 heure de route de la Belgique.
L'agriculteur arrive avec sa voiture devant mon bureau, frappé, s'est présenté. « Bonjour monsieur, je suis à la recherche de surface pour venir faire la culture de A à Z, de la plantation à la récolte. Seriez-vous prêt à me louer quelques hectares pour que je puisse faire ces pommes de terre ?» Je lui ai dit que si demain je ne dois revenir et m'asseoir dans mon bureau pour juste encaisser un chèque, je ne serais plus agriculteur à ce moment-là. Ma passion, c'est de produire.
Et puis cette location à prix d'or a un effet pervers sur le foncier. Ça bloque le marché, ça empêche les jeunes agriculteurs de s'installer puisque eux ne peuvent pas louer à ces tarifs 10 fois au-dessus du marché.
Les frites belges menacent-elles l'installation de nos jeunes agriculteurs ? Telle est la question. Merci pour ce reportage, Jeanne Bergaoui. Une enquête dans les Hauts-de-France, un dossier signé Europe 1 va plus loin.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre, l'innovation avec Anissé Mbida et ce matin, l'innovation dans les prisons.
Oui,
j'ai bien lu.
Oui, une innovation dans les prisons et une innovation contre-intuitive, parce que c'est des prisons où il fait bon vivre.
Dans les prisons ?
Dans les prisons.
Ok, à tout de suite, Anissé.
Bon réveil avec Nikos Aliagas sur Europe 1. Et si vous souhaitez réagir, faites-le sur Twitter. Hashtag Europe 1. Il est 7h23. Il est 7h25, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anissé Mbida, Nikos.
De l'innovation dans le milieu carcéral ce matin, avec une nouvelle génération de prisons qui vient voir le jour. Et paradoxalement, on y prône le bien-être des détenus.
Oui, oui, c'est le cas notamment en Norvège, à la prison de Halden, où on n'a pas, mais alors vraiment pas du tout l'impression d'être dans une prison de haute sécurité. Il n'y a pas de barbelés, il n'y a pas de cellules, mais une nouvelle architecture et un design assez original, avec de tout petits lieux de vie, des chambres individuelles et une ouverture sur des espaces verts. En fait, ils se sont rendus compte que passer du temps dans de longs couloirs aveugles, ça finissait par créer de la tension et des conflits. Donc tout a été ouvert avec des salles de gym, des bibliothèques, des cours de cuisine, des cours de musique. Pour eux, la punition, c'est déjà la perte de liberté.
D'accord.
Donc il n'y a pas de raison qu'en plus on rende invivable le quotidien des détenus.
Ce sont quand même des personnes qui ont commis un crime. Est-ce que c'est vraiment efficace contre les violences ou pour la réinsertion, par
exemple, apparemment, la première prison de ce type a été ouverte il y a 5 ans et il n'y a jamais eu le moindre incident violent. Et il n'y a même pas eu non plus de récidive, parce qu'on l'oublie. Hein, l'autre mission de la prison, c'est que les détenus à la sortie deviennent de bons citoyens et qu'in fine, nous tous, on puissions vivre en meilleure sécurité. Mais bon, ça se passe en Norvège, où contrairement à la France, il n'y a aucun problème de surpopulation carcérale.
Oui, on n'est pas dans la même mentalité. C'est vrai que la France a une densité moyenne de 140% dans la prison. Et puis la Norvège, ce n'est pas la France, c'est le pays du prix Nobel. C'est aussi le pays d'Anders Breivik, qui en 2011, cet assassin néo-nazi avait tué de sang-froid 77 personnes, des jeunes pour la plupart. Et sans faire le populiste ou ça donner mon avis, j'espère que lui ne sera pas dans cette prison bien-être, si vous voyez ce que je veux dire. Merci Anissé Mbida pour l'innovation de ce matin.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Se chauffer, s'éclairer, se déplacer. Aujourd'hui, EDF innove au cœur des territoires pour accélérer la transition énergétique. Plus d'infos sur edf.fr. Dans un instant, le journal de Céline Kallmann, mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol.
Le printemps est glacé, Laurent Cabrol.
Ah oui, mais quand même, ça y est, nous allons avoir maintenant un brin de douceur. Alors, tout à l'heure, j'ai insisté vraiment sur les températures très basses. Ce matin, il gèle dans de nombreuses villes, et au mieux, nous avons du 8 à 9. Et dans la journée, mais alors, ça va être... Ça va monter de manière considérable, entre 15 et 27 degrés. C'est dire si nous sommes assis sur une fusée, la fusée qui va nous conduire vers la douceur. 15 à Nancy, 17 du côté de Paris, de Bourges, de Nice, de Strasbourg et de Nevers. Toulouse, Lyon, Poitiers, 19, 20 à Albi, 22 à Bordeaux et 27 à Biarritz. Voilà pour les températures exceptionnelles, tant mieux. Mais demain il pleuvra, donc les températures vont baisser de nouveau. N'en parlons pas. Aujourd'hui, la pluie commence à un petit peu arriver, mais elle arrive lentement. Ça c'est le bon signe. Elle arrive très lentement sur les côtes atlantiques. Alors nous avons un risque de petite pluie sur le littoral, vraiment en bord de mer. Ensuite, ces pluies ou ces nuages ont gagné en fin de journée la Bretagne, la Loire-Atlantique, le Poitou-Charentes, la Vendée et l'Aquitaine. Et puis ailleurs, ce sera du soleil, donc ne vous inquiétez pas. Un peu d'un petit voile sur la Normandie et le Limousin et du grand beau sur la région parisienne, Champagne, Ardennes, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté. Et la Méditerranée sera sous un vent marin qui va vous rafraîchir un tout petit peu. Voilà, c'est une journée sympa.
Oui.
Demain, ça ne sera pas du tout. Alors donc, profitons-en.
Et en montagne, il fait froid et gris près de la Suisse. C'est l'automne et on a vu aussi un tweet
de Geoffrey.
Très sympa.
Geoffrey qui nous envoyait un tweet où il fait moins 3 à Chablis ce matin, où les vignes luttent contre le gel. Hein. Vous savez, Laurent, on a disposé des bougies, ces blocs de paraffine pour réchauffer les nuits.
On chauffe entre les ceps de vignes.
Exactement.
Ouais, mais je vous parlerai justement des dégâts tout à l'heure, parce que je vous demanderai les régions où les dégâts sont importants.
À tout à l'heure, Laurent Cabrol. À 7h40, Jean-Michel Apathy, Emmanuel Macron annonce ses premières mesures ce soir à 20h. Faut pas interdit pour le président. Et puis à 7h43, Axel de Tarlé, Big Bang en vue pour EDF. L'État veut renationaliser le nucléaire. Et à 7h45, je passerai un coup de fil à un boulanger de Ville-Gaillin qu'on y était il y a 6 mois pendant les inondations. Et vous allez voir, rien n'a changé, ou presque.
À tout de suite sur Europa.
Nous sommes le lundi 15 avril, il est 7h30.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Les urgences des hôpitaux sont en crise. Manque de moyens, afflux de malades, agression du personnel soignant. Un mouvement de grève touche désormais 5 hôpitaux parisiens depuis minuit. Grève illimitée, le reportage de Marion Jorte aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine.
De la colère et de la fatigue, c'est ce qui a poussé Nicolas à se mettre en grève aujourd'hui. Cela fait 5 ans qu'il travaille aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine. Le déclencheur, pour lui, c'est le manque de moyens et de personnel au quotidien.
Je viens d'enchaîner 3 week-ends d'affilée pour pouvoir avoir un week-end, pour pouvoir partir en vacances avec ma famille. Mais je sais que quand je vais revenir, je vais devoir les rattraper ces week-ends-là. En fait, on bosse, on s'épuise et on se sent un peu délaissé.
Une direction sourde et trop absente, c'est aussi ce que reproche Bleuhaine. Elle travaille aux urgences depuis 10 ans. Comme de nombreux aides-soignants, elle pointe du doigt l'insécurité. Elle traite tous les jours de patients en psychiatrie, violents ou alcoolisés. Elle s'est même fait agresser il y a 2 mois par un patient à l'accueil des urgences.
Quand on fait des études, on ne nous dit pas « vous allez recevoir un pain dans la tête ». Il va falloir se réveiller et pas attendre qu'il y ait un drame, parce que c'est ce qui va arriver un jour, qu'il y ait un de nos collègues qui soit poignardé ou étranglé. Ou, voilà.
Une délégation intersyndicale sera reçue dans la matinée par la direction des hôpitaux de Paris.
Reportage et signant Marion Jorte pour Europe 1. Un adolescent de 15 ans mis en examen est placé sous contrôle judiciaire. Hier, il est accusé d'avoir agressé jeudi avec un pistolet à billes une enseignante d'un collège de Saint-Denis près de Paris. L'adolescent était un ancien élève de l'établissement. Le recteur de l'académie doit se rendre sur place aujourd'hui.
Et c'est toute la question. Emmanuel Macron va-t-il trouver les mots et va-t-il proposer des mesures qui permettront une bonne fois pour toutes de stopper la révolte qui touche le pays depuis 5 mois.
Ce soir à 20h, je vous réponds. C'est sur cette phrase que s'achève une courte vidéo publiée hier soir par le chef de l'État sur son compte Twitter. Des images qui retracent le grand débat national, une sorte de bande-annonce assez surprenante. Ce soir, l'allocution va durer 20 minutes. Emmanuel Macron devrait y annoncer les grands chantiers et des mesures concrètes. En tout cas, pour Philippe Moreau-Chevrolet, professeur en communication politique à Sciences Po, sa prise de parole ce soir est acquis tout double.
C'est un coup de poker, en quelque sorte, d'Emmanuel Macron qui vise à sortir de la crise par un gros moment de communication qui ferait qu'on replacerait le président au centre du débat. Ce serait vraiment lui qui donnerait le rythme et l'autorité. On sortirait de cette crise des gilets jaunes par le haut pour l'Élysée. C'est un vrai pari dans la mesure où il ne faut pas décevoir, parce que les Français peuvent se dire qu'après tout ce suspense qui dure quand même depuis 2 semaines, si les annonces qui sont faites ne sont pas à la hauteur des enjeux, ça donnera l'impression que le président n'est pas sincère, qu'il ne comprend pas exactement les attentes des Français. Ça risque d'accélérer son impopularité et de l'amener un petit peu plus dans la crise, au lieu de l'en sortir.
Philippe Moreau-Chevrolet avec Jean-Jacques Herry pour Europe 1. Hier soir, Emmanuel Macron a informé ses ministres de ses arbitrages. Mercredi, il donnera une conférence de presse pour compléter les annonces, une première pour le chef de l'État à l'Élysée. Et notez que l'allocution de ce soir est à suivre, évidemment en direct sur Europe 1. Et juste après, Mathieu Béliard animera une émission spéciale.
Les riverains autour de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle n'en peuvent plus. Ils sont à cran, tout simplement parce qu'ils ne dorment plus.
Oui, ils ne ferment plus l'œil de la nuit, n'en peuvent plus de voir et d'entendre la nuit les avions au-dessus de leur tête, ce ronronnement permanent, d'autant que la situation pourrait se dégrader avec la construction du terminal 4 de l'aéroport. Plusieurs associations lancent une pétition ce matin pour demander à l'État plus de protection et surtout la réduction des vols de nuit. Le reportage édifiant d'Hélène Terzian à Gonesse pour Europe 1.
Ce bruit d'atterrissage ou de décollage, les habitants de Gonesse l'entendent 1300 fois par jour.
Voilà, c'est toutes les 2 minutes qu'on entend ça.
Un calvaire qui ne s'arrête pas la nuit souffle Alban, entouré de ses enfants.
Ben, on a du mal à s'endormir, quoi.
Ah ouais, moi j'entends tout le temps. J'arrive pas à dormir, du coup je me réveille toutes les 5 minutes.
Et moi, des fois, je mets ma tête en dessous du coussin pour que j'entende pas les avions.
C'est un impact sur le moral, quoi. Je sais pas comment les gens ils vont faire pour vivre, quoi, parce que déjà nous, avec ça, on déménage, on ne supportait plus. Donc, si avec ce terminal, effectivement, il y a 500 avions en plus, ça va être ingérable, quoi.
La nuit, seuls circulent les avions de transport de fret, 168 en moyenne. Les auteurs de la pétition craignent de voir ce chiffre augmenter avec le nouveau terminal. Ils demandent donc une réduction du trafic entre 23h et 5h, comme à Francfort, où les riverains ont eu gain de cause sur la Lufthansa, explique Catherine Bouvier de l'association de défense contre les nuisances sonores.
Lufthansa s'est adaptée. Ils ont mis leur fret avec les avions passagers et les riverains de Francfort peuvent dormir la nuit, tant mieux pour eux.
Des études prouvent que les nuisances sonores altèrent la santé des riverains.
Le reportage signé Hélène Terzian pour Europe 1. Le supporter de foot soupçonné d'avoir proféré des cris racistes à l'encontre d'un joueur d'Amiens vendredi soir à Dijon n'a pas été mis en examen, mais placé sous le statut de témoin assisté. Le magistrat n'a pas suivi les réquisitions du parquet qui envisage une voie de recours.
Si vous êtes fan du PSG, attention, la soirée a été humiliante pour le Paris Saint-Germain, battu 5 buts à 1. Ça s'est passé à Lille en clôture de la 32e journée de Ligue 1 et ça fait mal.
Humiliante, on peut dire ça comme ça. Défaite chez le Dauphin lillois. Ce Dauphin est un requin, titre l'équipe. Les Parisiens qui ont été réduits à 10 dès la 36e minute. Écoutez les mots très sévères de Kylian Mbappé à l'encontre de son équipe.
Il faut perdre avec la manière, on ne peut pas manquer de personnalité comme ça, prendre 3, 4, 5. Ça, c'est ça qui n'est pas normal. Après perdre, ça arrive. Ils ont une bonne équipe, donc félicitations à eux. Voilà, et devant un beau public, beau stade, mais c'est nous. Je pense qu'on doit jouer avec plus de personnalité. Et je pense que c'est un de nos défauts et il va falloir vite corriger ça. On a joué comme des débutants. Maintenant, voilà, il faut se reconcentrer. Il y a un match mercredi, mais je pense qu'il faut arrêter de perdre comme ça.
Kylian Mbappé hier soir sur Canal+. Et puis un visage à la une de l'équipe, celui de Tiger Woods avec un titre géant. 11 ans après sa dernière victoire en Grand Chelem, le golfeur réalisait un invraisemblable retour. Il a décroché hier son 15e trophée.
C'est le sport et c'est la vie, des hauts, des bas, mais on gagne toujours à la fin quand on est un champion dans l'âme. C'était le journal de Céline Kallmann. Merci Céline.
Si vous souhaitez réagir à l'actualité, faites-le en nous envoyant vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre avec le hashtag Europe 1, vous pouvez commenter évidemment nos spécialistes. Jean-Michel Apathy, on va parler politique évidemment. Ben oui. Le discours attendu du président.
Mais oui, ce soir, 20h, allocution solennelle. Que va dire le président? Ah, suspense.
Est-ce qu'il joue son quinquennat?
Ah ben un peu, oui, mon neveu.
Axel de Tarlé, on parle d'EDF, tiens.
Oui, parce que l'État envisage de renationaliser, alors au moins partiellement, mais renationaliser EDF.
Apathy Tarlé, le duo gagnant dans un instant sur Europe 1. Bon réveil à tous.
Il est 7h36. Il est 7h38, Nikos Aliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Ce soir, le président de la République s'exprimera devant les Français à 20h. En direct, Jean-Michel, il va donner ses premières réponses au grand débat.
Ben oui, c'est ça. Mais alors, ce qu'il va dire, ça c'est compliqué, parce que hier soir c'était assez hermétique. Je vais vous lire un SMS que m'a envoyé un des amis d'Emmanuel Macron, qui a beaucoup travaillé avec lui ces derniers jours. Le président va annoncer du concret et des chantiers seront dévoilés. L'audace et l'envergure du propos permettront de constater que le président de la République n'entend pas subir, mais relever le gant. Alors évidemment c'est un peu flou, hein, voilà, on est d'accord. Alors si on essaie de concrétiser, on voit bien où veut aller Emmanuel Macron. Il y aura à peu près trois piliers importants dans son intervention. D'abord quelque chose qui va concerner le pouvoir d'achat. Plusieurs pistes étaient étudiées. L'impôt sur le revenu pour les revenus modestes, réindexer les retraites, au moins les petites retraites. Je ne sais pas comment ils feront la différence entre les petites et les grosses retraites. Et d'ailleurs on verra ça avec attention. Venir aussi en aide à certaines populations défavorisées. Par exemple on parle beaucoup des femmes qui élèvent des enfants seuls. On appellera ce pilier la politique à la française. C'est-à-dire il n'y a pas de sous, mais j'en distribue quand même. Ça, c'est un miracle, c'est unique au monde. Ça fait 40 ans que ça dure. Ça ne durera pas encore 40 ans, mais profitons-en. On verra le financement et le coût de ces mesures. Il y a un autre pilier sur lequel compte beaucoup Emmanuel Macron. Il s'agit de la lutte contre ce qu'il appelle, lui, volontairement comme cela, l'urgence climatique. Il devrait y avoir là beaucoup de propositions, un projet cohérent, nous assure-t-on, donc beaucoup de mesures concrètes à moyen, à long terme, ce qui permettra à Emmanuel Macron de dire, voyez, j'ai pas le nez sur l'actualité, je vois plus large, et il espère aussi construire une forme de consensus là-dessus. Et un troisième pilier prévisible, la rénovation de la démocratie. Alors là, on pourrait trouver le pire et le meilleur, on va tout mélanger, c'est-à-dire le vote blanc, la proportionnelle, la diminution du nombre de députés, pourquoi pas, mais là c'est moi qui rêve, la suppression du Sénat. En revanche, plus sérieusement, on parle de la suppression du Conseil économique et social, un accès plus facile au référendum, donc quelque chose qui, là, est d'autant plus valorisant que ça ne coûte rien. Donc, sans doute, Emmanuel Macron va-t-il en profiter ?
Ça va calmer tout ça ?
Alors, justement, il y a quelque chose, avant de répondre à votre question, qui était évidemment la question clé, il y a aussi quelque chose d'indicible, c'est le ton, la posture qu'adoptera Emmanuel Macron. Et effectivement, pour impressionner l'opinion publique, la manière dont parle le chef est une donnée importante. Donc ça, on verra, l'allocution, 15 minutes, suivie d'ailleurs deux jours après d'une conférence de presse pour expliciter tout ça. Les buts qu'il poursuit, c'est ce que vous dites, Nikos, il s'agit de calmer la colère des Gilets jaunes, d'étouffer la contestation et de relancer son quinquennat. quinquennat. Et c'est là-dessus que Emmanuel Macron joue gros. Aucun président de la République avant lui n'a vu son quinquennat interrompu comme celui-là l'a été par une contestation, celle des Gilets jaunes en l'occurrence. Donc, soit il relance le quinquennat, soit il convainc, c'est très dur, soit il ne convainc pas, c'est un peu l'opinion générale aujourd'hui. Hein. Personne ne pense qu'Emmanuel Macron va renverser la table. Et s'il ne convainc pas, qu'est-ce qu'il se passe après? Eh bien là, personne n'est capable de le dire. Rendez-vous ce soir à 20h, notamment sur Europe 1, pour écouter l'allocution du président de la République.
Merci Jean-Michel Apathy.
On passe à l'économie avec la Caisse d'épargne qui vous présente le Zoom Eco. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Axel de Tarlé, Big Bang en vue pour EDF, car l'État veut renationaliser le nucléaire. Expliquez-nous.
Voilà, alors c'est une information du Parisien, donc renationaliser EDF. On est complètement à contre-courant, hein, parce qu'aujourd'hui l'ambiance est à la privatisation. Vous voyez, on privatise le gaz, les aéroports, les autoroutes, la Française des Jeux, en expliquant à chaque fois que l'État n'a pas à s'occuper de tous ces secteurs. Et bien là, c'est le contraire. L'État s'apprêterait à renationaliser les activités nucléaires. Pourquoi ? Ben, faut l'avouer, c'est un peu contraint et forcé. On réalise, enfin, l'État réalise que le secteur privé, que la bourse, n'arrive absolument pas à financer le développement du nucléaire. Pourquoi ? Eh bien parce que pour les boursiers, le nucléaire est à la fois trop dangereux, trop compliqué, trop long et surtout beaucoup trop coûteux. Figurez-vous que le nouveau réacteur EPR de Flamanville, là, qui n'a pas démarré, il a déjà coûté 11 milliards d'euros. Vous savez que 11 milliards d'euros, c'est le prix d'une entreprise comme Accor ou comme Dassault Aviation. Vous voyez, pour un seul réacteur qui ne marche toujours pas.
Considérable.
Sans compter qu'EDF doit rénover toutes les anciennes centrales. La Cour des comptes parle d'une note de 100 milliards d'euros. Donc, on est devant chez EDF ce qu'on appelle un mur d'investissement, un mur qui effraie les boursiers. L'action EDF est à la cave. Elle a été divisée par 3 depuis la privatisation en 2005. Donc EDF ne peut absolument pas s'appuyer sur la bourse pour financer son avenir. C'est donc l'État qui s'y colle, l'État qui considère que le nucléaire est un secteur d'avenir, un secteur stratégique. Donc oui, Emmanuel Macron aurait donné son feu vert pour que l'État reprenne le manche et rachète, nationalise les activités nucléaires d'EDF.
Oui, mais on dit que l'État n'a plus d'argent. Combien ça va coûter cette histoire ?
Ah bah voilà, alors tout le problème est là. L'État n'a plus d'argent, ça fait 40 ans qu'il dépense de l'argent qu'il n'a pas. Là, il faudrait dépenser à nouveau 7 milliards pour renationaliser 100% d'EDF. Alors non, il y a une idée qui se propage, c'est l'idée d'avoir 2 EDF. Vous voyez, on pourrait faire un EDF public qui regrouperait le nucléaire, et puis alors un autre privé qui resterait en bourse avec tout ce qui est à la mode, tout ce qui est renouvelable, solaire, éolien. En fait, on aurait 2 EDF pour le prix d'un. Un petit vert écolo est coté en bourse, et puis un gros public nucléaire très endetté, pas sexy, mais qui ferait tourner les centrales.
Un EDF bicéphale, Jean-Michel Apathy. Ah, voilà.
Oui, le Parisien évoque une bad bank pour cette structure publique d'EDF qui nous rappelle un vieux souvenir du Crédit Lyonnais qui avait coûté une fortune aux contribuables. Je pense que EDF va coûter très 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 cher au final aux contribuables.
C'était le Zoom Eco avec Axel de Tarlé. Merci, à demain.
Le Zoom Eco avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Dans un instant, coup de fil à un sinistré de Villegaillenc dans l'Aude. 6 mois après les inondations, que s'est-il passé depuis ? La reconstruction s'est-elle faite ? Réponse juste après ça, tout de suite.
Il est 7h44. Très belle matinée sur Europe 1. Il est 7h46, les principaux titres à retenir ce matin, Nico Saliagas.
20h ce soir, Emmanuel Macron va s'exprimer pour donner ses conclusions du grand débat. Son entourage promet des changements en profondeur et le tournant du quinquennat. Émission spéciale sur Europe 1 à suivre en direct ce soir avec Mathieu Béliard. Depuis hier soir minuit, grève illimitée dans les services d'urgence de 5 grands hôpitaux parisiens. Un mouvement pour dénoncer le manque de moyens, la saturation des services mais aussi les violences. Et la grève ne devrait pas impacter les patients. Un adolescent de 15 ans mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Il est soupçonné d'avoir agressé avec un pistolet à Bille, une enseignante de son ancien collège. Les faits se sont déroulés jeudi dernier à Saint-Denis. Le Paris Saint-Germain n'est toujours pas champion de France, humilié hier soir par Lille. 5-1, la pire défaite du PSG en championnat depuis presque 20 ans. Enfin, la tendance météo, du soleil dans l'ensemble, excepté sur la pointe bretonne. Des températures encore fraîches ce matin, mais ça va grimper dans la journée. Comptez de 10 degrés à Brest jusqu'à 26 à Biarritz pour ce 105e jour de l'année.
Météo complète avec Laurent Cabrol juste avant 8h. Europe 1. 6 mois après les inondations dans l'Aude, Villegaillenc qui est toujours sinistré. Nico Saliagas, vous êtes en ligne ce matin avec Gaël Coussinou, le boulanger du village.
Il y a 6 mois, avec la matinale d'Europe 1, nous étions sur place dans l'Aude, à Villegaillenc. La rivière, le Trapel, avait tout emporté. Écoutez.
Je suis sur la place du village. Nous assistons à quelque chose d'assez surréaliste. Devant la maison de Didier, une pelleteuse géante qui prend ses affaires pour les jeter directement à la poubelle, en fait. Il n'y a plus rien chez vous.
Il n'y a plus rien, rien du tout, non. C'est un désastre.
Voilà, c'était il y a 6 mois. Des images choc, une réalité difficile. 6 mois plus tard, nous sommes en ligne avec Gaël Cousineau. Bonjour.
Bonjour.
Et vous, vous avez, comme d'autres commerçants à Villegaillenc, tout perdu. Oui. Vous en êtes où aujourd'hui avec votre boulangerie ? À quoi elle ressemble ?
Mais pour le moment, c'est un peu le bordel un peu partout. Il n'y a pas trop d'avancées concrètes. Nous avons signé un accord avec notre assurance il y a 2 jours. Et pour le moment, on attend encore.
C'est-à-dire que vous avez touché des sous de votre assurance ?
Pour le moment, j'ai eu un chèque de 2000 euros au départ. Et jusqu'à ce jour, mis à part une aide de la région, de l'État, de la Chambre des métiers, de notre mairie aussi, et des entreprises locales, mis à part eux, je n'ai rien eu non.
Mais l'assurance a estimé à combien la dégradation de votre boulangerie ?
Elle a estimé aux alentours de 20 000 euros.
Et aujourd'hui, votre boulangerie est fermée. Oui. Rien n'a été reconstruit à l'intérieur.
Pour le moment, je vous avoue que j'ai pas trop mis les pieds.
Vous n'y arrivez pas ?
Non, un peu dégoûté de la situation que prend notre dossier, plus par cet aspect-là que par rapport aux inondations. Mais on a espoir d'y revenir assez rapidement et pouvoir entamer les travaux.
Dans l'enveloppe, justement, qu'il vous faut pour repartir, Gaël Cousineau, oui. Il manque combien d'argent ? Parce que vous appelez à l'aide avec une cagnotte sur Internet. Combien il vous manque ?
Les devis à neuf ont été estimés à 95 000 euros.
Votre boulangerie se trouve à Villegaillenc. Et 6 mois après, est-ce que c'est toujours une ville morte ?
Écoutez, petit à petit, ça reprend vie quand même. On a espoir de retrouver le village qu'on avait avant le 15 octobre, parce que c'est quand même un village où il fait bon vivre. Mmh. Et du coup, on se bat un peu tous à notre manière pour retrouver cette harmonie qu'il y avait dans ce village.
Il y avait eu une solidarité dès les premières heures. Est-ce que cette solidarité existe encore aujourd'hui à Villegaillenc ?
Oui, c'est un simple regard suffit à se comprendre entre chaque villageois. Ce qu'on a vu ce jour-là, c'est d'une fois formidable et d'autre part inattendu aussi, parce que dès la découverte de mon local le matin, sur les coups de 10-11 heures, le quartier dans lequel nous habitions s'est mobilisé entièrement, et en une heure ou deux, la boulangerie était rapidement nettoyée.
Oui, parce que c'est vrai que c'est dans les drames parfois qu'on découvre aussi la solidarité. Est-ce que le pont a été reconstruit, celui qui était juste au-dessus du trapèze ?
Oui, nous avons un pont temporaire. Il est censé être démonté pour être remplacé par un pont normal.
Parlez-moi un petit peu du village, de ce que vous voyez quand vous êtes à Villegaillenc. Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu la vie au village ?
La vie au village, elle reprend son cours petit à petit. Le ruisseau a été remodelé. On essaye tant bien que mal de retrouver le village qu'on avait auparavant.
Il y a un semblant de vie, et puis on attend aussi que l'on détruise des maisons qui ne sont pas considérées comme habitables.
Oui, c'est ça. On sait à peu près quelles maisons vont être démolies, mais à quel moment, comment, on ne sait pas.
Vous parlez avec les autres villageois, vous gardez comment le moral, justement, avec... J'imagine qu'il y a une solidarité dans toute la région avec la cagnotte que vous lancez.
Oui, à ma grande surprise, j'ai appris que grâce à ça, on était de plus en plus connus. Et après, c'est surtout grâce aux villageois que nous arrivons à garder le cap. Les villageois, notre famille, tout notre entourage, de près ou de loin, qui est là pour nous rassurer et nous aider en cas de problème.
Qu'est-ce que vous attendez de l'État, vous, aujourd'hui, Gaël Cousineau ?
Nous, ce que nous attendons juste, c'est être remboursé à la vraie hauteur du sinistre et pouvoir réouvrir le plus rapidement possible.
Qu'est-ce que vous disent les services officiels ?
Les services officiels, pour le moment, c'est très compliqué.
Pourquoi ?
Parce que notre banque, pour le moment, nous a un peu coupé les vivres suite aux découvertes qui a grandi de jour en jour. Et d'une autre part, l'assurance attend que je réouvre pour me donner les sous. Sauf qu'on se retrouve un peu dans un cercle vicieux et il va falloir que quelqu'un puisse débloquer tout ça.
Les services de l'État, ils vous ont contacté ? Ils vous aident ?
J'ai eu pas mal d'aide, oui, au niveau de l'URSSAF, du RSI. Ils ont gelé toutes les mensualités. Notre banque aussi a fait un effort par rapport à notre emprunt. Mais bon, c'est vrai qu'au bout de 6 mois, d'une, on ne s'attendait pas à ce que ça prenne autant de temps. Et du coup, ben, on est un peu à la recherche de solutions.
Votre vie a été chamboulée, Gaël Cousineau. Oui. Vous aviez votre métier. Il y a eu ce sinistre, il y a eu cette catastrophe avec des victimes, avec des dégâts. Oui. Votre vie a changé du jour au lendemain. Qu'est-ce qui vous aide et qu'est-ce qui vous permet de rester encore dans la course et de garder le moral ?
Ben, en premier temps, ce qui m'aide à garder le moral, c'est ma compagne et ma fille. C'est des journées de 15 à 18 heures qu'on faisait, et du jour au lendemain, ben, on est passé à zéro. Donc du coup, grâce à notre fille déjà, qui nous ramène...
Elle a quel âge ?
Elle a 4 ans.
Elle a 4 ans. Donc le sourire de votre enfant est plus fort que tous les drames du monde.
C'est ça.
Je vous souhaite bonne chance et bon courage, surtout pour la suite, Gaël Cousineau.
Merci,
je rappelle
à vous.
Que vous êtes un des commerçants du village de Villegaillac, vous aviez votre boulangerie, aujourd'hui vous êtes en attente, effectivement, et vous essayez de trouver d'autres formes professionnelles pour pouvoir subvenir à vos besoins. Et vous lancez cette cagnotte Litchi, qui est en ligne et qui s'appelle Aide aux sinistrés. À très bientôt, et j'espère que ça va s'accélérer pour vous. J'espère revenir vous voir et passer le bonjour à tous les habitants de Villegaillac.
Avec plaisir.
À bientôt.
Merci à vous.
Au revoir, Gaël.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre, pression maximale sur Emmanuel Macron. Le président de la République s'exprime ce soir à 20h pour apporter des réponses concrètes au grand débat. Les détails dès le début du journal de 8h avec David Doucan. Et puis l'événement planétaire cette nuit, le premier épisode de l'ultime saison de Game of Thrones. Sur les réseaux sociaux, les fans se lâchent. La petite histoire de Jean-Philippe Ballas arrive dans moins d'une minute.
Et continuez à nous envoyer vos messages sur Twitter, hashtag Europe 1. A tout de suite avec Nico Saliagas, il est 7h54. Il est 7h56, c'est l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Beaucoup d'insomniaques cette nuit, mon cher Jean-Philippe Ballas. Que de messages sur les réseaux sociaux, la saison finale de Game of Thrones a commencé cette nuit.
Et pour vous prévenir que ce matin, vous risquez fort de croiser quelques collègues de bureau, un peu au bout de leur vie, un peu le regard fixe devant la machine à café, un peu en train de marmonner un truc dans ce genre-là. Oui les amis, c'est le premier épisode de la dernière saison de Game of Thrones qui a été diffusée cette nuit. Je précise que les petites voix que vous avez entendues sont les acteurs de la série qui chantaient le générique. Alors vous étiez peut-être vous-même devant votre écran. Et pour tous les autres, pour bien prendre la mesure de cet événement mondial, j'ai choisi de partager avec vous quelques commentaires à chaud glanés sur les internets. Et d'abord, cette jeune lycéenne qui écrit, je la cite, « Ce matin, mon prof de philo, il va voir le somme vu le coma que je vais taper. Mais bon, Game of Thrones avant tout. » Qu'on pourrait traduire par « Ce matin, mon professeur de philosophie sera sans doute courroucé en constatant mon état de fatigue, mais je me devais de regarder Game of Thrones. » Voilà, chacun somme. Le dit avec ses mots. « Comment suis-je censé continuer ma vie après ça ?» Là, c'est Martha qui pose la question. Vous avez compris, on est tout dans la mesure, le recul, la pondération. Vous avez aussi l'analyse politique. Oui, c'est possible. Emmanuel Macron a choisi de prendre la parole après le lancement de Game of Thrones. Coïncidence ? Je ne crois pas, constate Guillaume. Et puisqu'on parle politique, les amis, mais vous savez quoi ? Nous avons ici, dans cette matinale à Europe 1, un fan absolu de Game of Thrones qui était assis à ma place, enfin sur mon trône, il y a quelques minutes, oui.
C'est
ce fan s'appelle Jean-Michel Apathy. Il a les yeux qui brillent ce matin, Jean-Michel. Alors, il n'a pas encore vu l'épisode. Hein. Il le regardera ce soir, avant ou après Emmanuel Macron. Allez, ce sera après quand même, mais il est impatient, Jean-Michel.
Je crois qu'il a vu le début. Il a vu le début.
Les 5 premières minutes. Ouais. Il était en transe.
Mais pourquoi ça marche, Game of Thrones, Jean-Philippe Ballas ? Parce que c'est de la politique ?
Je me réserve, moi je suis à la saison 1 pour l'instant.
Et David Doucan, pourquoi ça marche ?
Mais parce que c'est de la politique, ça raconte le pouvoir. Et le pouvoir fascine.
A tout de suite pour le journal de 8h avec David Doucan. Merci Jean-Philippe Ballas pour la petite histoire.
Et juste avant, on retrouve Laurent Cabrol pour la météo.
La météo fascine aussi.
Ah oui, elle fascine et puis elle inquiète et elle fait peur. Et nous avons de quoi...
Il fait froid.
Ce matin, oui. Disons que nous avons une pensée émue, disons le mot, pour les arboriculteurs et les viticulteurs qui ont vraiment souffert ces 3 derniers jours. Vous savez qu'hier, les températures, hier et avant-hier, se situaient parfois entre moins 8 et moins 9. Il y a forcément des dégâts. Et ces dégâts seront importants, on ne les mesure pas encore. Mais franchement, ils ont dû vraiment, vraiment dérouiller, si vous me permettez cette expression. En ce qui concerne, surtout que les gelées étaient généralisées. Ce matin, il y en a encore, hein, moins 5 à Saint-Etienne, moins 4 à Vichy, moins 3 à Nevers, moins 2 à Clermont-Ferrand, 0 à Nancy, 1 à Lyon, 3 à Lille, 4 à Paris, 6 à Rennes en ce moment. Vous voyez, des températures extrêmement basses, alors que dans la journée, elles vont bien remonter là, parce que bien sûr, les vents ont tourné, nous allons retrouver maintenant des valeurs de 15 à 27 degrés dans le Macron l'après-midi, c'est la folie furieuse.
Quel contraste.
On passe vraiment du tout au tout, c'est presque inquiétant. En ce qui concerne la pluie, elle arrive, elle va nous embêter demain, et elle arrive pour l'instant sur les côtes atlantiques, mais elle ne se presse pas, et vas-y que je traîne. Eh bien, traîne ma petite pluie, et puis on l'aura demain, et aujourd'hui, vous aurez quand même pas mal de nuages sur toutes les régions qui bordent l'Atlantique. Partout ailleurs, ce sera un soleil à peine voilé, mais du soleil quand même, voilà.
Vous parlez aux éléments, vous, Laurent Cabrol, vous parlez à la pluie, vous parlez au soleil et au vent.
Bah oui, j'adore parler au ciel surtout.
Oh, magnifique. Il ne tombera pas sur la tête grâce à vous. À tout à l'heure.
Merci d'avoir choisi Europe 1 ce lundi matin. Et très bon réveil à tous, il est 5h. Il est 8h. 5h, c'est un petit peu tôt.
Il est 5h
plus
3h.
Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h, et ça c'est sûr, avec Nico Saliagas.
Il est 5h dans quel pays surtout, c'est ça qu'il faut voir. Vous êtes ailleurs, jetlagué, mais ça c'est Game of Thrones. Bonjour David Doucan.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Il joue la suite de son quinquennat, rien de moins. Emmanuel Macron sera seul en scène ce soir, allocution solennelle sur toutes les chaînes. C'est enfin la réponse à la crise des Gilets jaunes. Le chef de l'État veut frapper fort pour inverser la vapeur. Connaissez-vous le dioxyde de titane ? Non, pourtant, vous en mangez tous les jours. C'est un colorant alimentaire. Il va bientôt être interdit parce que cancérigène. Information Europe 1 dans ce journal. Et enfin, c'est ce que l'on appelle revenir de l'enfer. Après 11 ans d'attente, 4 opérations du dos, le golfeur de légende Tiger Woods a remporté hier le Master d'Augusta. C'est son 15e titre du Grand Chelem.
Et puis à 8h12, Vincent Hervouet va nous emmener en Libye. La bataille de Tripoli qui s'enlise. Et c'est un échec pour la France. À 8h15, la tête de liste Europe Écologie Les Verts pour les Européennes. C'est Audrey Crespo-Mara qui reçoit Yannick Jadot.
Europe 1. L'objectif, c'est surtout de vous entendre.
Alors, Monsieur le Président de la République.
Je pense qu'on peut lever par ce débat beaucoup de malentendus.
Bonjour Monsieur le Président et bienvenue dans les Alpes d'Haute-Provence.
Moi, je prends un engagement solennel devant vous, c'est que moi, j'en tirerai des conséquences véritables.
Des conséquences véritables. L'Élysée a carrément préparé une bande-annonce à l'américaine publiée sur le compte Twitter d'Emmanuel Macron. Le président assume la pression maximale, cela tombe bien, elle est réelle. Ce soir, 20h, allocution solennelle depuis l'Élysée pour clore 3 mois de grand débat national. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Alors Mickaël, c'est la suite du quinquennat qui se joue ce soir. Alors,
vous savez, les Gilets jaunes, c'est la crise de croissance du macronisme. Et ce soir, Emmanuel Macron va faire tapis, tout simplement, effectivement.
Comment
il joue
poker.
La suite du quinquennat, il va tout mettre sur la table. Depuis plusieurs semaines, on sait qu'il est à la recherche de mesures magiques capables de doucher la colère des Gilets jaunes. Ce week-end, dans les coulisses du pouvoir, c'était un peu le marathon de Macron aussi, hein, avec à l'arrivée un dîner au finish et des ministres qui sont chargés de faire les derniers arbitrages, notamment sur les questions de fiscalité.
Alors justement, les annonces que vous évoquiez, à quoi peut-on s'attendre ?
Alors deux types de mesures. Hein. D'abord, celles qui concernent la fin du mois. On verra quelle piste a été privilégiée, la baisse de la TVA, la réforme de l'impôt sur le revenu. On parle également de la création d'un service public pour le versement des pensions alimentaires pour femmes isolées, très présentes sur les ronds-points depuis le début de la crise. Et puis Emmanuel Macron doit également lancer une opération à cœur ouvert pour greffer une nouvelle manière de fonctionner de la démocratie avec les fondations de la démocratie délibérative, avec une nouvelle manière de participer donc, aux décisions publiques. Il avait dit, souvenez-vous, sur le porte-avions donc Charles de Gaulle, j'ai échoué à réconcilier les dirigeants et le peuple. C'est exactement à ça qu'il va également s'attacher en deuxième lecture.
Alors si j'ose dire, Emmanuel Macron, avec cette réponse, il veut un blast présidentiel. En deux temps, Mickaël, avec une grande conférence de presse à l'Élysée après-demain.
Oui, ça c'est un tournant beaucoup plus important qu'il n'y paraît, hein, parce que c'est la première conférence de presse élyséenne d'Emmanuel Macron qui redonne en fait sa place de médiation donc aux journalistes. C'était pas vraiment le cas depuis le début du mandat, pour faire encore de nouvelles annonces d'ailleurs, dit-on. Il se place aussi d'ailleurs dans le sillage comme ça de ses prédécesseurs. Bien et sûr. Sous la pression des Gilets jaunes, eh bien le chef de l'État entame sa mue au bout de 2 ans de mandat, et pour trouver un nouvel élan, eh bien, il compte aussi utiliser les connanciens.
Merci beaucoup, Mickaël Darmon, du service politique d'Europe 1. Et pour clore cette page politique, je vous emmène sur le terrain de la campagne électorale pour les européennes. Marine Le Pen présente aujourd'hui son projet. Le Rassemblement national entérinera le virage pris après la présidentielle, avec notamment l'abandon de la sortie de l'euro.
C'est une information Europe 1. Le ministre de l'économie va interdire le dioxyde de titane.
Oui, il s'agit d'un colorant alimentaire que l'on trouve dans certains bonbons, chewing-gums, sauces ou plats préparés. L'Agence de sécurité sanitaire des aliments vient de remettre un rapport à Bercy qui démontre le caractère cancérigène de cette substance. Bruno Le Maire attendait cette étude pour confirmer sa décision de bannir le dioxyde de titane de notre alimentation. Ève Roger.
Bruno Le Maire va tenir sa promesse, interdire le dioxyde de titane, d'abord parce que c'est inscrit dans la loi, dit-on dans son entourage, et ensuite parce que, selon nos informations, le rapport que les experts lui rendent aujourd'hui ne contredit pas les dernières études sur les risques associés à ce colorant. En particulier, celle de l'INRA, qui a montré il y a 2 ans que des rats qui ingurgitaient du dioxyde de titane tous les jours, dans les mêmes proportions que nous, développaient des anomalies précancéreuses au bout de 3 mois. Et cette interdiction paraît tellement inévitable qu'elle a même été anticipée par les industriels, explique Magali Ringot de l'association Agir pour l'environnement.
Quasiment tous les fabricants de bonbons français ont déjà arrêté d'utiliser ce colorant qui n'est absolument pas indispensable. L'enjeu, c'est surtout les chewing-gums sous forme de dragées, les produits importés et des éléments de décoration pour pâtisserie ou pour les chocolats.
Mais la bataille n'est pas finie car les associations dénoncent les risques du dioxyde de titane dans l'enrobage de 4 à 5 000 médicaments comme le Doliprane en gélule ou le Spasfon rose façon Smarties, mais aussi dans certains cosmétiques et bien sûr dans une majorité de dentifrices, comme une étude récente l'a révélé.
Ève Roger, la chef du service société pour Europe 1.
Les services d'urgence sont en grève dans plusieurs hôpitaux parisiens depuis ce soir minuit.
Oui, en cause l'agression de plusieurs personnels dans la nuit du 10 au 11 avril par 2 patients. Écoutez le témoignage de cette aide-soignante aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine. Elle préfère rester anonyme, mais nous raconte ce qui lui est arrivé lorsqu'elle a voulu porter secours à l'une de ses collègues qui se faisait agresser.
Un patient s'est présenté à nous, on l'a reçu en lui posant des questions. Et d'un coup, il n'y avait pas de signe. L'homme s'est levé, il a commencé à s'avancer vers nous. Une de mes collègues a essayé de le maintenir. Il lui a tiré les cheveux. À savoir que ce jour-là, il n'y avait pas d'agent de sécurité présent sur les urgences. Et j'ai voulu aller aider ma collègue. Quand je me suis avancée vers lui, il m'a donné un très violent coup de poing en plein visage. J'ai hurlé et heureusement, tous mes collègues sont arrivés. J'ai eu un hématome au niveau de l'œil que j'ai gardé pendant plusieurs semaines. Et puis après, il y a le psychologique aussi, hein, puisqu'une fois que la trace est partie, la trace, elle ne part pas dans la tête.
Témoignage recueilli par Marion Jorte pour Europe 1. Et bien sûr, je vous précise que c'est un mouvement social qui n'impactera pas les soins, puisque les protestataires, comme d'habitude, se contenteront de porter un brassard en grève.
Europe 1.
À suivre dans le journal de 8h avec David Doucan, direction l'Algérie, la société civile s'organise sur place pour proposer une alternative au système. À tout de suite.
Il est 8h08, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec vous, David Doucan, et la société civile algérienne qui s'organise pour proposer une alternative au système.
Oui, les contestataires sont tous d'accord pour se débarrasser des proches d'Abdelaziz Bouteflika, comme l'actuel président par intérim, par exemple. Mais que propose-t-il à la place ? Associations, syndicats, mouvements citoyens, tout cela est en train de s'organiser, comme en atteste ce reportage réalisé par notre envoyé spécial à Alger, Sébastien Krebs.
Un débat en pleine rue, au milieu d'un square inimaginable, il y a encore quelques semaines. Des étudiants, des associatifs et de simples passants réfléchissent à la sortie de crise. Abdelwahad Fersaoui, l'organisateur, préside l'association RAGE. La société civile fourmille, dit-il.
Pratiquement chaque jour, il y a une réunion, soit des jeunes, des étudiants, des avocats, des enseignants. L'urgence, c'est d'ouvrir les débats. C'est à partir de là qu'on peut avoir l'émergence des nouveaux leaders. Il faut prendre le temps.
Impossible de faire émerger une vie politique nouvelle en seulement 3 mois. Beaucoup souhaitent une transition plus longue, mais qui soit menée par des figures indépendante et incontestable. L'ancienne magistrate Zoubida Assoul est souvent citée parmi d'autres.
Ça m'honore, mais en tout cas, on verra. Le plus important, c'est qu'on se mette d'accord sur la feuille de route, organiser des assises nationales, permettre à toutes les catégories de la société de désigner leurs représentants. On ne peut plus imposer des décisions d'en haut.
On parle aussi de grands avocats ou de militants historiques des droits de l'homme, mais à ce stade, ces leaders potentiels préfèrent rester discrets. La priorité, c'est que le système Bouteflika tombe pour de bon. Ensuite, ils seront prêts. Alger, Sébastien Krebs, Europe 1.
C'est un nom difficile à prononcer, mais que vous allez beaucoup entendre dans les prochaines semaines. Pete Buttigieg, c'est la nouvelle sensation démocrate aux États-Unis. Il a 37 ans, il est maire de la ville de South Bend, dans l'Indiana. Il est homosexuel, c'est un vétéran de l'armée américaine en Afghanistan et il vient de déclarer sa candidature à la primaire démocrate pour la présidentielle de 2020.
Comment vous le prononcez ?
Pete Buttigieg.
Vous êtes sûr ?
Oui, sûr et certain.
On ne dit pas 2 fois Edge ?
Non, parce que moi je regarde les late shows américains et j'ai vu les humoristes prononcer Pete Buttigieg.
Ah, vous aussi, vous êtes insomniaque ? Magnifique.
Oui, regarde, oui.
Un mot de sport ?
Non, parce qu'avant de passer au sport, je reste aux États-Unis et je vous propose, Nikos, d'écouter ça.
The Return to Glory.
Qu'est-ce que c'est ?
Bah, Tiger Woods.
Tiger Woods, le public du très select golf d'Augusta en Géorgie, aux États-Unis, est plutôt habitué aux réactions policées. Mais là, il s'est transformé en foule surexcité parce que c'est un moment d'histoire du sport qui se jouait.
Voilà.
Après 11 années, oui, vous aviez raison, c'était du sport en effet. Après 11 années d'attente, 4 opérations du dos.
Quelle
et
histoire.
Bien des doutes. Tiger Woods signe un exploit en remportant hier son 15e titre du Grand Chelem. Et c'est une épopée comme seule l'Amérique sait les écrire. Le récit de notre correspondant aux États-Unis, Xavier Yvon.
À quelques minutes d'intervalle, Donald Trump et Barack Obama ont tweeté leurs félicitations à Tiger Woods. Mettre à l'unisson le président américain et son prédécesseur, c'est dire la puissance du comeback. La première vie de Tiger Woods, c'est un succès fulgurant dès ses débuts dans les années 90. 14 titres du Grand Chelem en 12 ans, il révolutionne le golf, semble invincible, devient le sportif le mieux payé de la planète. Puis vient la chute de l'idole. En 2009, révélation sur ses très nombreuses maîtresses, il divorce, fait des excuses publiques. Plus tard, c'est son corps qui le lâche. 4 opérations du dos et une arrestation au volant endormi sous l'effet d'un cocktail de médicaments. On pense qu'il est fini. Et lui aussi. J'ai vraiment douté que je pourrais revenir, a confessé hier Tiger Woods. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus rester assis ou allongé, je ne pouvais plus rien faire. Finalement, une ultime opération et une résilience hors du commun l'ont conduit à cette victoire en Grand Chelem, 11 ans après la dernière. Peut-être l'une des plus belles à cause de tout ce qui s'est passé avant, a lâché le tigre dans un sourire. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Vous avez vu le mental ?
Bah oui, il n'y a que ça.
Et puis c'est l'allégorie du golf, c'est-à-dire c'est l'humilité. Ouais. Chaque chose, chaque étape, petit à petit, et à la fin, avec ou sans victoire, ce qui compte, c'est le chemin.
Ouais, bien sûr, revenir à ce qu'il est revenu à ce qu'il savait faire, c'est ça les grands champions.
Alors, bravo.
En parlant de grands champions, bon, c'est comme s'ils ne voulaient pas concrétiser leur titre de champion de France, les Parisiens. Le Paris Saint-Germain a subi une sévère défaite hier soir à Lille, 5-1. L'attaquant vedette Kylian Mbappé était furieux, il a déclaré qu'avec ses coéquipiers, ils avaient manqué de personnalité.
Et vous en avez de la personnalité tous les matins.
Merci.
C'est à 8h et c'est sur Europe 1 avec David Doucan demain.
Demain.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 8h13, coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouette, Nikos.
Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Nikos. Bonjour à tous. Bonjour à toutes.
En Libye, la bataille de Tripoli fait rage. Elle a été lancée par le maréchal Haftar et elle marque le pas.
Oui, la guerre de conquête, ça commence toujours en claironnant, et puis ensuite c'est plus confus. Alors le maréchal Haftar contrôle l'est de la Libye, le centre et aussi le sud, dont les tribus viennent de se rallier à son panache chamarré. Il a remis les puits de pétrole en service, et puis après ce détour direction Tripoli, il veut en finir avec le gouvernement qui ne gouverne rien, coller au mur les voyous à barbichette, les marchands d'esclaves et les trafiquants qui tiennent la capitale sous leur coupe depuis 8 ans, et puis organiser des élections dans 2 ans. Alors que demande le peuple ? Eh bien, en fait, il n'y a plus de peuple en Libye. On l'a enterré avec Kadhafi, qui avait lui-même enterré l'État. 10 jours de canonnades et d'escarmouches ont fait 120 morts, 500 blessés. On est dans les ratios. C'est pas Stalingrad, c'est l'Afrique. Des bleds au sud de la capitale ont été pris, perdus, repris. L'offensive éclair du maréchal ne marche pas sur des roulettes. Et pour cause, dans la guerre des sables, les roulettes sont déconseillées. Il faudrait des avions pour faire la différence. Alors hier, le maréchal Haftar est allé voir le maréchal Sissi au Caire. Maréchaux, les voilà qui se racontent des histoires sur les frères musulmans qu'ils détestent tous les deux. Mm-hmm. Et avant, le Libyen a fait l'aller-retour au Kremlin.
Vous voulez dire que le sort de la Libye se joue en Égypte et en Russie ?
Et pas en Europe en tout cas. L'Europe veut du pétrole et pas de migrants. La situation actuelle lui convient. Alors au nom des 27, la commissaire Mogherini a sommé le maréchal de rentrer à la niche. Elle n'en a pas dit autant aux généraux algériens ou soudanais qui ont pris le pouvoir pour éviter le chaos. La France a signé ses vœux pieux européen. Alors c'est très hypocrite car des parachutistes du commandement des opérations spéciales sont aux côtés du maréchal Haftar depuis 2015. On fait ça en douce, à côté de la diplomatie spectacle qui organise des sommets interlibyens qui tournent court. Emmanuel Macron ne joue pas au petit sein. Il n'est pas le pape François. Il n'embrassera pas les bottes du maréchal Haftar ou il le fera plus tard quand elles seront posées sur le bureau à Tripoli.
Vincent Hervouette, tous les jours sur notre antenne dans la matinale pour l'édito international.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Restez avec nous dans 2 minutes, Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique. Qui est votre invité ce matin ? Bonjour Audrey.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Écoutez, il annonce que désormais le choix des Français serait entre l'écologie et la barbarie. À 6 semaines des européennes et à 12 heures des annonces d'Emmanuel Macron, Yannick Jadot, député européen et tête de liste Europe Écologie Les Verts aux Européennes, sera mon invité.
Hâte de vous écouter dans quelques instants.
8h17, Nico Saliagas.
L'eurodéputé Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts aux Européennes, et votre invité Audrey Crespo-Mara. Bonjour.
Bonjour Yannick Jadot.
Bonjour.
Le président doit parler ce soir aux Français. Le plus grand secret entoure les mesures qu'il doit annoncer pour ménager un effet de surprise. D'après vous, ce sera une bonne ou une mauvaise surprise ?
Il faut que ce soit une bonne surprise. On a besoin de réconcilier les Français, on a besoin de les emmener sur un grand projet partagé qui nous sorte de la haine, qui nous sorte de la violence, qui nous sorte du repli. Et pour nous, évidemment, ce grand projet partagé qui va remobiliser tout le monde, c'est autour de l'écologie, autour de la transition énergétique, l'isolation de nos logements. C'est lutter contre la vie chère, c'est créer des métiers d'artisans qualifiés sur tous nos territoires, c'est évidemment les énergies renouvelables, c'est la transition de l'agriculture pour qu'on ait à la fois la protection de l'environnement, de notre santé, une bonne alimentation. Voilà ce qui peut réunir la société.
Alors la seule information qui transpire, c'est qu'Emmanuel Macron veut des mesures à effet rapides, visibles et concrets. Privilégier le court terme, n'est-ce pas tout le contraire de la démarche écologique ?
Et la démarche écologique, c'est se projeter sur le long terme, c'est se réconcilier avec notre futur en protégeant la nature, mais c'est évidemment agir dès maintenant. La catastrophe, elle a déjà commencé, elle va s'amplifier. En revanche, si on agit immédiatement, on gagne. Et on gagne du point de vue économique, on gagne du point de vue de la justice sociale. Avec un beau projet, on peut éviter qu'il y ait un seul salarié au bord de la route. Au contraire, créer de l'emploi, y compris pour notre jeunesse.
Yannick Jadot, la leçon de la crise des Gilets jaunes, c'est que la fin du mois a désormais priorité sur la fin du monde.
C'est le même combat. Quand je dis on isole nos logements, c'est à la fois économiser des centaines d'euros de chauffage, c'est créer de l'emploi sur tous ces territoires qui sont abandonnés. Quand
vous dites c'est le même combat, mais quand, par exemple, selon la restitution du Grand Débat, 58% des Français sont hostiles aux taxes écologiques pour modifier les comportements. Ça veut dire que c'est une mauvaise idée.
L'écologie, c'est pas seulement des taxes. Ce qu'on dit aussi les Gilets jaunes...
Il n'y a pas besoin de taxes.
Ce qu'on dit aussi les Gilets jaunes, c'est que chaque euro collecté doit être redistribué pour accompagner les Français dans la transition qu'ils savent indispensable et pour investir. Mais quand nous nous battons pour qu'on investisse sur les énergies renouvelables, ce sont des emplois partout, c'est de l'investissement. Quand nous nous battons pour que les normes européennes sur le diesel soient correctement appliquées, c'est éviter des dizaines de milliers de morts prématurées. C'est rendre possible à nos enfants de courir dans les cours de récré dans la journée.
Donc, concernant les hypothétiques mesures sociales annoncées ce soir, il y a cette idée de fonds de garantie des pensions alimentaires. Ça, vous trouvez
c'est une excellente idée. C'est absolument scandaleux que des familles monoparentales et particulièrement des femmes soient en difficulté financière parce que elles ne touchent pas leur pension alimentaire. Ça marche très bien au Québec, il faut faire la même chose. Et ce que nous proposons, nous aussi, c'est un statut des aidants. Vous savez, rien que dans notre
pays... Les aidants familiaux. 11 millions en France.
C'est le droit de prendre soin de ses proches. Vous avez 11 millions d'aidants dans notre pays. Et c'est très difficile pour organiser leur travail. Il faut que ça soit récompensé pour la retraite. Il faut qu'on valide des compétences. Nos anciens veulent être soignés chez eux et nous avons des aidants qui ne sont pas aidés. Eh bien, il faut un grand projet autour des aidants pour leur garantir un statut.
En juin 2017, Yannick Jadot, Emmanuel Macron a frappé les esprits avec un slogan « Make our planet great again ». Puis il a été désigné champion de la Terre par les Nations Unies. Et aujourd'hui, il est le seul Européen à s'opposer au nouvel accord commercial avec les États-Unis parce qu'ils sont sortis de l'accord de Paris.
C'est une blague, c'est pas sérieux. Vous savez, la France, pour sa campagne électorale en France, dit s'opposer à cette négociation avec les États-Unis et ne fait rien pour que l'Europe bloque cette négociation.
C'est une
opposition de façade. Vous savez, ce gouvernement, avec Emmanuel Macron, a validé l'accord avec le Canada. Nous importons des carburants issus des sables bitumineux. C'est le pétrole le plus dégueulasse qu'on peut extraire de la terre. Ce gouvernement soutient le fait que maintenant, nous dépendons à 80% du soja transgénique américain. Donc,
Pensez que François de Rugy ne pèse pas sur les décisions
du
gouvernement ?
Mais j'en sais rien de François de Rugy.
Bah, il est ministre de l'écologie.
Le seul qui décide dans ce pays, pour ce qui est de l'État, c'est Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron nous fait miroiter d'un côté la protection de l'environnement, la protection de la santé, de l'autre, notamment au niveau européen. Malheureusement, il fait exactement l'inverse. Il soutient le nucléaire. Vous rendez compte qu'on va dépenser de l'argent public pour sauver EDF parce que c'est en faillite? Parce que le nucléaire est en faillite, quand nous avons des emplois à créer sur tous nos territoires, beaucoup plus autour des énergies renouvelables. Il faut arrêter de se moquer des Français. On les prend vraiment pour des idiots à travers cette campagne électorale. Alors, et d'un certain nombre de candidats comme Mme Loiseau.
Nathalie Loiseau, justement, la tête de liste La République En Marche, affirme que la première urgence, c'est l'écologie. Vous doutez encore que l'écologie soit la priorité d'Emmanuel Macron ?
Moi, j'adorerais que l'écologie soit aussi prioritaire dans les programmes que ce que disent tous les candidats. Vous savez, ils ont quand même tous eu leur chance. La droite, la gauche, avec les socialistes qui ont gouverné les 5 dernières années, avec Emmanuel Macron, ils ont tous eu leur chance. Sur le social, c'est un échec. Sur l'économique, c'est un échec. Et sur l'environnement, maintenant, ils viennent nous faire la leçon. Je dis aux Françaises et aux Français, notamment à tous ces socialistes, à tous ces humanistes qui se sentent perdus aujourd'hui dans le paysage politique. Vous voulez de l'écologie ? Eh bien, il y a un vote simple. C'est voter vert pour ces élections européennes parce que c'est le groupe vert au Parlement qui vous protège, qui protège l'environnement, qui protège la nature, qui protège la santé, qui redonne de la force à l'écologie à l'échelle européenne.
Yannick Jadot, à 6 semaines du scrutin, vous stagnez à 7,5-8% dans les sondages. Donc c'est parce que tous les autres partis se sont convertis à l'écologie, ça vous agace que vous n'ayez plus le monopole de l'écologie ?
Non, moi je rêve que tout le monde se convertisse sincèrement à l'écologie. Simplement, il y a un moment, il y a la cohérence. Les socialistes au Parlement européen, ils sont comme tête de liste pour l'Europe. Il est pour le glyphosate, pour les accords de libre-échange, pour le dumping fiscal.
Donc vous dites, les autres mettent juste une étiquette écolo pour obtenir des votes, simplement.
Je dis simplement que, moi j'étais encore à Bruxelles ce week-end, avec tous les écologistes européens. Nous voulons une grande vague verte. Nous voulons conquérir l'Europe pour qu'il y ait ce grand projet sur l'écologie, le climat, l'agriculture paysanne et biologique, les transports du quotidien, un projet d'espoir pour notre jeunesse. C'est ça qu'on a envie de porter. On a envie de mettre l'écologie au cœur du paysage politique européen. Nous ne serons plus les supplétifs de personne et notamment de ceux qui, quand ils sont à Paris, quand ils font des campagnes, promettent tout sur l'écologie et quand ils votent à Bruxelles et à Strasbourg, font absolument l'inverse. De la cohérence, de la clarté, c'est ça l'écologie.
Yannick Jadot, si on additionne vos scores dans les sondages avec Benoît Hamon et Raphaël Glucksmann, on ne voit pas de différence fondamentale entre vous, vous êtes à 18%. Les trois ensemble, loin devant les Républicains à 14%.
Ségolène
Royal, elle dit tout ça à cause de la bataille d'égo de ces messieurs.
Mais non, si j'avais voulu mettre mon égo en avant, je les aurais tous rassemblés derrière moi.
Ce
que je veux, c'est de la cohérence et de la clarté. Je sais comment fonctionne le Parlement européen et je sais que c'est parce qu'on aura un groupe vert puissant, parce que les électrices et les électeurs mettront un bulletin vert le 26 mai, qu'ils auront des députés verts qui renforceront le groupe vert. C'est comme ça qu'on gagne. Tous les autres voix, y compris quand vous pensez voter pour l'écologie dans d'autres formations politiques, ce sont des voix perdues parce qu'ils sont tellement dans leurs contradictions. Parce qu'à un moment donné, ils disent on veut du protectionnisme, mais en fait on vote les accords de libre-échange. On veut voter contre eux, on est pour la santé, mais on vote les pesticides. On est pour le climat, mais on vote le charbon, on vote le nucléaire.
Yannick Jadot,
stop les incohérences, vive la cohérence avec les écologistes.
Une dernière question, le Parisien titre ce matin « Comment l'État veut sauver EDF ?» et affirme qu'il est question de renationaliser les équipements nucléaires.
Vous rendez compte le drame absolu dans lequel nous sommes. Le nucléaire en France, c'est le dernier avatar du soviétisme. C'est l'opacité, c'est 100% d'argent public et c'est la faillite permanente. On nous propose toujours un avenir radieux, il est toujours plus radioactif. Les Français vont encore donner des milliards au nucléaire quand tous les autres Européens, quand tous les autres grands pays en Asie et ailleurs misent sur les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, c'est l'innovation. On a les meilleurs ingénieurs du monde. Ce sont des PME, ce sont de grandes entreprises. Et puis, c'est dépendre du soleil, du vent, plutôt que de Poutine, de Trump ou des pétrodictatures du Golfe et éviter le risque nucléaire. C'est ça l'espoir écologique. C'est justement la révolution énergétique autour de l'emploi et de nos territoires.
Merci Yannick Jadot.
Merci infiniment.
C'était l'interview politique avec Audrey Crespo-Mar.
Nico Saliagas sur Europe 1.
David Abiker arrive.
pour la revue de presse. Et puis à 8h40, l'autre trublion, la revue de presse de Nicolas Cantelot. Tout de suite.
On aura également la météo avec Laurent Cabrol. À tout de suite avec Nico Saliagas sur Europe 1. Il est 8h27. Prochaine demi-heure, Nikos.
Il y aura la revue de presse dans quelques instants avec vous, David. Bonjour, David Abiquet.
Bonjour, Nikos. Bonjour, Céline.
Bonjour.
Ce matin, je vais vous parler d'une bataille qui pourrait finir en 2021 entre partisans du camembert au lait cru
oui.
contre les partisans du camembert au lait pasteurisé. C'est pire que Game of Thrones.
Vraiment ?
C'est pire.
À tout de suite, la revue de presse avec David Abiquaire. Et juste après, ce sera la revue de presse avec l'insortable, l'inimitable Nicolas Cantelou.
Ouais, beaucoup plus sérieux là, tout de suite. Et maintenant, c'est la météo avec Laurent Cabrol.
Et sans coup faire rire, je vais vous parler du week-end de Pâques.
Tiens. Allez-y.
Hein, c'est un Pâques au balcon de nos vivres. Donc il fera doux. Samedi, dimanche, ce sera orageux dans le sud. Pas terrible, terrible, mais enfin quand même, c'est orageux. Avec du soleil sur la moitié nord et des températures de 20 degrés. En général, le temps sera plus agréable sur les côtes de la Manche que sur les côtes méditerranéennes, samedi, dimanche prochain. Et puis lundi de Pâques, un temps très moyen, nuageux avec quelques averses. Donc vous l'avez compris, chers amis, c'est un congé qui est supportable. Allez, souvent on a eu des Pâques mauvaises, celle-là, elle est plutôt bonne.
Bon,
en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, sur les côtes de la Manche et la mer du Nord, et nous aurons du beau temps. Sur les côtes atlantiques, nous aurons l'arrivée de la pluie. Nous assistons à l'arrivée de la pluie. Oh, elle traîne, je vous le dis, depuis ce matin. Je sais de la voir, je la perçois. Donc, Gascogne, j'ai voulu donner un coup de pied dans
ça
la
veut une vie très elle pitante. Veut pas venir.
Bon. Alors donc, elle sera là dans la journée quand même. Enfin, en fin de journée, elle va traverser la France demain. Et de sorte que les températures vont passer à devenir positives, puisqu'elles sont largement négatives ce matin, entre moins 5 et plus 8. Demain, il fera beaucoup plus doux. Et cet après-midi, déjà, on ressentira cette douceur entre 15 et 22 degrés. Voilà.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. À tout à l'heure.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Nous sommes le lundi 15 avril. Toute l'actualité à 8h30 avec vous, Nico Saliagas.
20h ce soir, Emmanuel Macron va s'exprimer pour rendre public les conclusions du grand débat. Son entourage promet des changements en profondeur. Une allocution de 20 minutes peut être le tournant de son quinquennat. En tout cas, pour Philippe Moreau-Chevrolet, qui est professeur en communication politique à Sciences Po, la prise de parole du chef de l'État est à double tranchant.
C'est un coup de poker, en quelque sorte, d'Emmanuel Macron qui vise à sortir de la crise par un gros moment de communication qui ferait qu'on replacerait le président au centre du débat. Ce serait vraiment lui qui donnerait le rythme et l'autorité. On sortirait de cette crise des Gilets jaunes par le haut pour l'Élysée. C'est un vrai pari dans la mesure où il ne faut pas décevoir, parce que les Français peuvent se dire qu'après tout ce suspense qui dure quand même depuis 2 semaines, si les annonces qui sont faites ne sont pas à la hauteur des enjeux, ça donnera l'impression que le président n'est pas sincère, qu'il ne comprend pas exactement les attentes des Français. Ça risque d'accélérer son impopularité et de l'amener un petit peu plus dans la crise, au lieu de l'en sortir.
Propos recueillis par Jean-Jacques Herry pour Europe 1. Le chef de l'État donnera une conférence de presse mercredi à l'Élysée, une première depuis le début de son quinquennat. Et notez que l'allocution de ce soir est à suivre évidemment en direct sur Europe 1. Et juste après, Mathieu Béliard animera une émission spéciale. Depuis hier soir, minuit, grève illimitée dans les services d'urgence de 5 hôpitaux parisiens. Un mouvement pour dénoncer le manque de moyens, la saturation des services, mais aussi les violences. La grève ne devrait pas impacter les patients. Un adolescent de 15 ans mis en examen est placé sous contrôle judiciaire. Il est soupçonné d'avoir agressé avec un pistolet à billes une enseignante de son ancien collège. Les faits se sont déroulés jeudi dernier à Saint-Denis. Le Paris Saint-Germain n'est toujours pas champion de France, humilié hier soir par Lille, 5-1. Et c'est la pire défaite du PSG en championnat depuis presque 20 ans. Nous avons joué comme des débutants, a reconnu Kylian Mbappé après la rencontre.
Europe 1. La Caisse d'épargne vous présente la revue de presse. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Et la revue de presse, c'est avec David Abiquaire, bien sûr. Nicolas.
David, ce matin, à la une, le retour d'un géant.
Il aura préparé son coup tard dans la nuit. Personne n'osait vraiment y croire, du jamais vu. Un géant est de retour. Non, il ne s'agit pas d'Emmanuel Macron, mais des mots choisis par l'équipe pour saluer la victoire du golfeur Tiger Woods hier au tournoi d'Augusta après 11 ans d'absence. Ceci dit, pour Macron, qui parlera ce soir à 20h, ce sera sportif aussi. Ça passe ou ça casse, pas de grand chelem pour le chef de l'État, mais un grand dilemme en une de Libération qui se demande si c'est un président plutôt à droite ou plutôt social qui prendra la parole. Macron à la recherche de l'effet « waouh » choisit l'opinion. Comment trouver le swing qui sidérera les Français ? Et les éditorialistes de la presse régionale ne sont pas en reste ce matin, qui dramatisent à l'excès l'allocution de ce soir, comme si la survie de tout un pays en dépendait. une sorte de quitte ou double, le midi libre. Macron n'aura pas de seconde chance, la Nouvelle République. Au pied du mur, le Républicain Lorrain. Mais revenons à l'équipe, qui donne à ses lecteurs et peut-être au président de la République française les clés du succès de Tiger Woods, le sportif ressuscité. Plus humain, plus souriant, plus vulnérable, il a su s'arracher à la meute de ses poursuivants pour réussir le plus stupéfiant des comebacks. Mmh. Macron en rêve, Tiger Woods l'a fait.
Nom de code de l'opération Hercule, car l'État pourrait renationaliser la filière nucléaire française.
Alors peut-être que le président en parlera ce soir. En tout cas, le calendrier est arrêté, assure le Parisien aujourd'hui en France. L'État réfléchit à une réorganisation d'EDF privatisée en 2004. La raison, 37 milliards de dettes, mais surtout 100 milliards d'investissements à venir et le casse-tête de la gestion des déchets nucléaires. Que pourrait faire l'État ? Bien nationaliser les activités que le président estime régaliennes, la production d'énergie nucléaire, la commercialisation du gros et les barrages, tout en conservant dans le secteur privé les autres activités. L'objectif, faire cesser le yo-yo des prix. L'État attend d'EDF une proposition de réorganisation à la fin de l'année. Le Parisien aujourd'hui en France parle d'un Big Bang, un peu comme ce qui s'annonce en une des échos ce matin dans le secteur publicitaire avec le rachat par Publicis de l'américain Epsilon, spécialisé dans l'analyse du comportement des consommateurs à partir de ces données, de ces data. Même si dans les échos, Arthur Sadoun, le patron de Publicis, se défend de changer de métier, continuer à faire de la création, c'est son job. Ce rachat pour 4,4 milliards d'euros revient à faire entrer dans le groupe ce qu'on appelle des data scientists. 3700 data scientists. Qu'est-ce que c'est que le data scientist ? C'est un nouveau métier. C'est l'expert qui sait tirer les données collectées sur les consommateurs pour aider les marques à cibler leurs offres. Désormais, on ne dira plus fils de pub, mais plutôt fils à data.
Puisque vous parlez de Marc David, Frigidaire ressuscité en France.
La marque créée, vous savez, il y a un siècle, est relancée en France où elle a disparu depuis 20 ans. Relancée par le Suédois Electrolux. Relancer Frigidaire, c'est ressusciter la France des DS et du général de Gaulle. La France des 30 Glorieuses, c'est des couleurs des chromes et donc surfer sur la vague rétro. Et puisque je vous parle de froid, c'est Ouest France qui ce matin fait sa une sur la ruée vers l'Arctique. Nouvel Eldorado énergétique qui aiguise les appétits des compagnies gazières et pétrolières avec un colloque qui s'est tenu la semaine dernière à Saint-Pétersbourg. Pourquoi ils s'y précipitent ? 13% des réserves mondiales de pétrole, 30% des réserves de gaz. Ils y courent également parce que la glace est plus fragile, rendant la prospection plus facile, tandis que la zone devient une voie maritime toujours plus rapide entre l'Asie et l'Europe. On marche évidemment sur la tête, la glace fond et on cherche toujours plus de pétrole. L'Arctique, surveillé et contrôlé comme le lait sur le feu par Poutine. Lisez ce matin Ouest France pour comprendre pourquoi le futur de la planète se joue aussi sous cette latitude. On va terminer avec une guerre qui va peut-être finir. Je parle de la guerre que se mènent depuis des années les fabricants de camembert au lait cru. Le vrai contre ceux qui prétendent faire du camembert avec du lait pasteurisé. Les premiers considèrent les seconds comme des hérétiques assoiffés de profit. Le Figaro évoque ce matin le désarmement d'une zone de conflit, à savoir l'appellation d'origine protégée, enjeu de tous les combats. L'authentique camembert pourrait y cohabiter malgré tout avec le camembert au lait pasteurisé, en mentionnant sur ses boîtes « véritable ». Le camembert au lait cru moulé à la louche. En contrepartie, les industriels baptiseraient cœur de gamme leur camembert fabriqué avec des robots et emploieraient 30% de lait de vache normande. À ce prix, la paix pourrait intervenir en 2021. À côté de cette bataille de titans dont le Graal et le goût, la série Game of Thrones est un conte pour enfants.
Ce que j'aime, c'est le moulé à la louche. C'est très important.
Vous aimez ?
C'est une question de cuillère, toujours. Merci beaucoup. C'était David Abiker pour la revue de presse.
C'était la revue de presse avec la Caisse d'épargne. 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Est-ce que vous êtes prêts ? Parce qu'il n'est pas loin, il arrive. Nicolas Canteloup et Julie. La revue de presse pour bien sourire, bien rire et bien commencer la semaine dans quelques instants.
Il est 8h40, la revue de presse avec Optime Home, des conseillers immobiliers engagés pour trouver votre bonheur.
Il revisite l'actualité avec impertinence, le voici. Nicolas Canteloup, la revue de presse avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Allez, le titre principal de l'actu avec vous, Nico.
Ouais. Let's for surround, salut ses auditeurs. C'est Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui va interdire l'additif E171, le dioxyde de titane, présents dans des aliments, pardonnez-moi, et qui seraient cancérigènes. Oui, Bruno n'a pas eu la peau des géants du net, les GAFA, mais il aura celle d'une molécule. Voilà. Quel courage, il n'a pas peur de se salir les mains, Bruno Le Maire, nono, notre nono à nous. À toi, Julien.
Merci, Nikos. Tout le monde commande déjà les déclarations à venir d'Emmanuel Macron, dont on ne sait rien. Édouard Philippe va nous en dire plus. Bonjour, Monsieur le Premier ministre.
Oui, bonjour, Mme Leclerc.
Vous avez promis de l'audace et de l'envergure.
Tout d'abord, bonjour à tous. Alors, de l'audace, de l'envergure. Effectivement, là, je crois que tout le monde est d'accord pour le dire. Ce soir, 20h, ça va, comme on dit trivialement, pardonnez-moi de le dire, ça va envoyer du bois. Ça va être énorme, disons-le, ça va être historique. Je pense, sans embâche, que ça va être le tournant du quinquennat, contrairement à ce que vient de dire Monsieur Apathy, que j'ai senti, dubitatif dans sa chronique.
Non mais excusez-moi Monsieur Philippe, mais c'est la politique à la française. On n'a plus une thune et on va en distribuer quand même. On attend ce soir avec Macron l'épisode à la Game of Thrones et ça va être Hélène et les garçons. Il n'y aura rien de se passer, rien.
Effectivement, il est dubitatif, Jean-Michel. Dites-nous en plus, Édouard Philippe, allez.
Alors déjà, ce que je peux vous dire avec une quasi-certitude, c'est que ça va être très différent. Alors bon, le président de la République va quand même mettre une cravate, très différent, mais très une cravate.
Oui,
alors,
oui,
on était, non mais c'est important, on était sur une cravate bleu outre-mer, mais je pense qu'on va peut-être basculer sur un bleu marine.
Mais écoutez, on s'en fiche, non franchement, mais concrètement, sur le fond.
Alors, bien sûr, autant pour moi, le fond. Alors le fond, qu'est-ce qu'il y aura sur le fond? Je pense qu'en fond, on mettra l'Elysée.
Parce que c'est... Mais non. Alors,
peut-être les jardins. C'est vrai que les jardins en fond, surtout au printemps, c'est chez Fleury, c'est joli, c'est quand même un parc.
Sur le fond du discours.
Pardon, autant pour moi, oui, d'accord. Bien sûr, j'y viens. Alors, d'accord, très bien. Alors, déjà, la grande nouveauté, on va, le président sera éclairé.
Oui,
parce
qu'on
avait eu un souci. Non, souvenez-vous, il y avait eu un souci d'éclairage.
Non, oui, mais d'accord. Mais...
De réalisation.
Non, hein, allez.
C'est pas M. Carnet qui était à la réalisation, Carnet qui était à la réalisation. Là, on va éclairer le président.
Carnet. Oui, bon, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur... Écoutez, on lit qu'il...
Frère, oui, oui, il y en a deux. Hein. Bon, on va pas rentrer dans la famille Carnet, mais bon. Alors.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On lit qu'il a préparé son allocution avec une équipe très restreinte. Il y avait qui autour de la table?
Alors, trois. Ils sont trois. Alors, il y a le président, il y a son stylo et une feuille à quatre.
Non, écoutez, mais vous ne savez rien en fait alors.
Absolument que dalle. Et je peux vous le dire, parce qu'on est en totale transparence, j'en sais en tout cas beaucoup moins que M. Apathy.
Bah écoutez, merci pour tout, Monsieur le Premier ministre. On va recevoir maintenant Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Bonjour, Monsieur Ferrand.
Oui, bonjour. Bonjour.
Alors, vous êtes le plus fidèle défenseur du président. Il est dans quel état d'esprit? Dites-nous.
Écoutez, le président de la République... Il est serein, il a été très bon dans ses interlocutions, il a été très clair, il était très concis, je crois que chacun de nos concitoyens peut s'en rendre compte. En même temps, comme l'a dit précédemment certains chroniqueurs, il y a eu de l'audace dans les propositions, mais au-delà, on a surtout senti les qualités d'écoute du président de la République
qui a toujours été
vis-à-vis français.
Plaît, dans Monsieur Ferrand, il n'a encore rien dit, c'est ce soir l'allocution, allons.
Ah merde.
Comme vous dites.
D'accord. Donc, oui, écoutez, c'est un petit peu gênant. Bon, écoutez, en même temps, donc c'est ce soir. Il a rien dit. En même temps, on va pas se mentir. Comme je trouve systématiquement le président excellent, et comme c'est ce que je vais dire après mon intervention ce soir, autant que je vous le dise maintenant. Hein, ça vous permet de prendre un peu d'avance sur votre travail. Donc il a été génial. Voilà. Vous n'aurez qu'à me rediffuser dès qu'il aura parlé.
Eh ben, on va faire ça. Merci Monsieur Ferrand.
Bravo.
Emmanuel Macron s'exprime donc ce soir et l'attente est forte. Hein, la porte-parole du gouvernement a même dit qu'après, plus rien ne serait comme avant. Bonjour Monsieur le maire.
Oui, bonjour Madame Leclerc. Bonjour Monsieur Aliaga.
Bonjour.
Et bonjour aux autres chroniqueurs au reste qui vous entourent.
Oh.
Je ne dis pas bonjour au GAFO. C'est Nono. Nono, le zigouilleur de molécules de Bombec.
Alors, vous êtes ministre de l'économie. Vous avez forcément des informations sur ce que le président va dire ce soir.
Écoutez, je ne peux que confirmer ce qu'a dit notre porte-parole. Plus rien ne sera comme avant. Oui, et je dois vous confier que je suis très excité. Il faut que je vous dise quelque chose qu'il va annoncer. Mais j'ai une demande à vous faire. Vous pouvez le garder pour vous?
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Allez-y alors.
Écoutez, ça va être énorme. Énorme, c'est du jamais vu. Il a eu une idée de génie.
Oui, oui, monsieur Oppoti, il a une idée de génie. Nous allons, tenez-vous bien, baisser de 3 centimes le prix de l'essence. C'est totalement ouf. Et tenez, autre chose, alors ça c'est totalement hallucinant. Il va baisser la CSG des retraités de 2,8%. Socialement, c'est du jamais vu depuis monsieur Blum, depuis Léon Blum. C'est totalement délirant, c'est dingue. Je n'en peux plus, je suis très excité. Ce pays va vivre, je vous le dis, une véritable révolution.
Ouais, mais enfin, c'est pas terrible quand même, hein. Vous n'avez pas mieux ?
Mais si, il y a un truc de malade mental. C'est là que vous allez voir qu'Emmanuel Macron est fait du même bois que Charles de Gaulle ou que Louis XIV.
Oui, carrément.
Une mesure, c'est une... Non, mais ne soyez pas dubitatif, ne soyez pas ironique. C'est une mesure de feu. Il va supprimer une niche fiscale sur les doubles vitrages en PVC qui permettait à tout particulier qui rénovait une résidence située dans les dom-toms de bénéficier d'un abattement de 7% d'impôt foncier à partir de la troisième fenêtre. Écoutez, je vous le dis, c'est du jamais vu. Je suis comme un fou. Je suis comme un dingue. Demain, on va tous se réveiller dans un nouveau monde, je vous le dis.
Eh bien, vivement demain. Merci Bruno.
Vive la fenêtre en PVC.
La troisième.
C'est monsieur Jadot qui va être heureux.
Allez, on va parler maintenant de Marlène Schiappa qui a rencontré Bilal Hassani, le candidat français à l'Eurovision. Bonjour madame Schiappa.
Oui, bonjour madame Leclerc, vous êtes extraordinaire. Bonjour à madame Acosta, vous êtes exceptionnelle. Monsieur François Claus, je ne vous salue pas. Prendre la place de l'excellente Wendy Moucha, ce n'est vraiment pas très glorieux.
Temporairement.
Quant aux autres du studio, je m'en fous.
Merci. C'est très poli, merci.
Alors, écoutez, en tant que ministre de l'égalité homme-femme, j'ai rencontré Bilal, monsieur Bilal Hassani, car il est le meilleur ambassadeur, disons-le, de l'égalité homme-femme, vu que son corps est une égalité parfaite, vous l'avez remarqué, entre un homme et une femme. Et c'est d'ailleurs ce à quoi devraient ressembler tous les êtres humains aujourd'hui.
Ouais, bah c'est ça. Ouais, bah écoutez, on l'aime beaucoup, Bilal Hassani, mais c'est bien qu'il y ait aussi des hommes et des femmes, quand même.
Hein. Oh, l'autre. Madame Leclerc, vous avez des idées de naze. Rétrograde, vous êtes une rétrograde.
Alors, on attend tous avec impatience les mesures d'Emmanuel Macron. Vous les connaissez, vous ?
Oui, bien sûr. Emmanuel Macron, le président de la République, notre sauveur, notre maître à tous, s'est isolé. Il a fait, et c'est légitime, le point. Il a écouté, il a consulté et il est en mesure d'annoncer la mesure du siècle, celle qui va sauver la France, je le crois, car plus rien ne sera plus jamais comme avant. Tenez-vous bien, le président de la République va laisser aux conseils départementaux le choix de rouler à 80 ou 90 sur les routes.
Et
voilà.
C'est tout ? C'est tout alors.
Vous êtes en train de dire du mal d'Emmanuel Macron, je le sens. Vous, pour l'année prochaine, vous allez avoir des problèmes. Ça va être retour à Radio Saint-Étienne.
Je vous inviterai, tiens. Allez, merci Marlène. Allez, une info qui concerne Marine Le Pen. Hier, le JDD nous apprenait que pour financer la campagne des européennes, Marine Le Pen vendait des packs. Pour 15 000 euros, un cocktail en présence de Marine Le Pen. Pour 50 000 euros, un déjeuner avec elle. On va en parler avec son père. Bonjour Jean-Marie Le Pen.
Moi, j'ai donné 4 millions d'euros à ma saleté de fille. J'ai le droit à quoi ? Et qu'elle se pende, n'est-ce pas ? Et qu'elle saute du haut de la tour Eiffel ?
50 000 euros pour un déjeuner avec elle, c'est cher quand même. Hein.
Oui, mais attendez, et encore plus cher, n'est-ce pas ? J'ai la grille de tarifs sous les yeux. Et un cocktail, 15 000 euros. Un déjeuner, n'est-ce pas ? 50 000. Un dîner, 75 000 euros. Et une nuit d'amour, 15 euros. Et c'est déjà trop cher, les draps. Attendez, je m'avais dit, sa lingerie déjà portée, 800 euros.
Oh non.
Non, il n'y a que son programme qu'elle ne vend pas.
Bah pourquoi ?
Parce qu'elle n'en a pas.
Oh, on a compris, merci Jean-Marie Le Pen. 15 000 euros pour un cocktail, 50 000 pour un dîner avec Marine Le Pen. Tiens, Dominique Strauss-Kahn, vous vouliez commenter cette actualité ? Voilà. C'est bizarre, ça, hein ?
Au contraire, en matière de tarifs d'escorte, vous avez devant vous un spécialiste. Pardon, deux spécialistes, je ne vous avais pas vu, monsieur Légard.
Oh, on voit que lui, allons.
Ces sommes-là, ce n'est pas pour moi, autant manger un grec. Hein,
je sens que vous êtes toujours à l'aise sur ce genre de remarques.
Donc, Marine Le Pen propose...
La bise à votre femme.
Merci.
Tina, si tu m'entends.
Arrête.
Marine Le Pen propose donc pour 15 000 euros le cocktail, pour 50 000 euros le dîner. Qu'est-ce que vous en pensez, Dominique Trossan ?
Bien, j'en pense qu'elle s'emmerde pas mal, maman. Non, elle s'emmerde pas, maman. Franchement, j'ai connu beaucoup mieux pour moins cher. J'ai vu les dernières photos de maman. 15 000 boules, n'y allez pas, s'il y en a.
une arnaque.
Il est terrible, terrible. Bravo Julie, bravo Julie, bravo Nicolas Canteloup. C'est bien de commencer la semaine avec la revue de presque et puis de continuer juste après vous avec le tour de la question.
C'était la revue de presque avec Optim Home. Pour évaluer le juste prix de votre bien immobilier, rencontrez un de nos conseillers Optim Home. Au rendez-vous sur oh-immobilier.com pour une estimation en 2 minutes chrono.
Et ce matin, Marlène Schiappa l'a dit, c'est pas Wendy Bouchard.
Non, on va la rassurer, elle sera là, Wendy, demain.
Ça va, François Claus ?
Eh bien, ça va pas mal. Do you speak English,
A little bit, my friend. What do you want ?
Milate Lenica.
Ne, Livane. Et vous êtes polyglotte ?
Non, ça, j'ai appris ce matin. Sprechen Sie Deutsch, vous l'avez compris, on va parler de l'apprentissage des langues en France. Le dernier rapport est arrivé, il paraît que ça va un peu mieux, mais on est encore à 75% d'élèves qui sortent du collège et qui ne savent pas parler une langue étrangère. Vraiment. Quel est ce mal français? Pourquoi? Comment? Comment rattraper notre retard sur les autres Européens? On va faire le tour de la question. Et puis à partir de 10h, une autre question grave. Un métier très difficile, on va faire le tour. Ce métier, être parent. On a des droits, on a des devoirs aussi. Et on va faire le tour de cette question à partir de 10h.
Muchas gracias, compañero.
De nada.
Dans un instant, la météo avec Laurent Cabrol.
Il est 8h54, à suivre l'essentiel de la matinale avec vous Nicolas Eliagas, mais tout de suite on retrouve Laurent Cabrol, c'est la météo.
À 6h50, vous nous disiez que les réveils étaient très 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 froids, voire frisquets,
ouais.
et ce matin, ça y est, ça commence à s'adoucir un peu, les températures montent.
Effectivement, Nico, ça monte maintenant, et puis ça montera de plus en plus, puisque nous avons changé de direction de vent. Donc ce matin, nous avions du moins 5 à plus 8, il faisait très froid encore. Cet après-midi, 14 à Langres, 15 à Nancy, 16 à Dijon, 17 à Paris, Nice, Strasbourg et Nevers, à Toulouse, Lyon, Poitiers, Albi, entre 19 et 20, 22 à Bordeaux, et 27 degrés même à Biarritz, qui sera une température exceptionnelle.
Quel écart !
Oui, un écart énorme. Donc ça y est. Maintenant, autre bonne nouvelle pour la journée d'aujourd'hui, c'est le soleil qui va l'emporter quasiment partout, avec une petite marge nuageuse et même peut-être pluvieuse sur les côtes atlantiques, Bretagne, Loire-Atlantique, Poitou-Charentes, Vendée, Aquitaine sont des régions où nous aurons quelques gouttes de pluie, mais partout ailleurs, le soleil va s'imposer. Profitons-en, je disais, puisque demain la pluie va traverser la France d'ouest en est. Oh, c'est un passage pluvieux tout à fait classique. Mercredi, retour de l'anticyclone, et le soleil sera là, donc mercredi, jeudi, vendredi. Vous voyez que c'est un passage pluvieux vraiment de courte durée, et je vous ai parlé du week-end de Pâques, qui est une Pâques au balcon.
Très très bien. Si vous connaissez des patterns, c'est le moment de leur dire bonne fête.
Ah,
vous connaissez des patterns?
C'est pas commun quand même.
S'il y a un pattern qui nous écoute, amen. Merci beaucoup Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
On revient sur les moments forts de cette matinale, Nicolas Eliagas.
Le président de la République s'exprime ce soir à 20h pour apporter ses réponses concrètes au grand débat, une allocution solennelle de 20 minutes et une pression maximale pour Emmanuel Macron qui joue la suite de son quinquennat. Que faut-il attendre de cette allocution? Les détails avec Mickaël Darmon, c'était dans le journal de 8h.
Deux types de mesures. D'abord, celle qui concerne la fin du mois. On verra quelle piste a été privilégiée, la baisse de la TVA, la réforme de l'impôt sur le revenu. Et puis, Emmanuel Macron doit également lancer une opération à cœur ouvert, avec une nouvelle manière de participer donc, aux décisions publiques sous la pression des Gilets jaunes. Et bien, le chef de l'État entame sa mue au bout de 2 ans de mandat. Et pour trouver un nouvel élan, et bien, il compte aussi utiliser les connanciens.
Retour à Ville-Gaillenque dans l'Aude ce matin, 6 mois après les inondations, rien n'a changé ou presque. Les indemnisations des assurances tardent et les sinistrés s'impatientent. Ils veulent reconstruire leur village comme Gaël, le boulanger, lui, a tout perdu. Écoutez, j'étais en ligne avec lui à 7h45.
Pour le moment, j'ai eu un chèque de 2000 euros.
Mais l'assurance a estimé à combien la dégradation de votre boulangerie?
Elle a estimé aux alentours de 20 000 euros.
Vous appelez à l'aide avec une cagnotte sur Internet. Combien elle vous manque?
Les devis à neuf ont été estimés à 95 000 euros. Nous, ce que nous attendons juste, c'est être remboursé à la vraie hauteur du sinistre et pouvoir réouvrir le plus rapidement possible.
Et pour aider Gaël, rendez-vous sur la cagnotte Litchi, entraide suite au sinistre du 15 octobre. Des agriculteurs français hors la loi dans les Hauts-de-France, ils sous-louent des terres à prix d'or à des agriculteurs belges qui cultivent leurs pommes de terre. C'est un business totalement illégal, mais qui leur permet d'arrondir leur fin de mois. C'est le cas de Michel que Jihan Bergaoui a rencontré près de la frontière belge. Écoutez son témoignage, c'était à 7h20 dans Europe 1, un peu loin.
Moi, je suis tombé sur un bon belge. Donc le belge a proposé un peu de sous hectare, c'était des sous sûrs. C'est illégal, mais le propriétaire, il est quand même bien content de toucher son fermage. Hein.
Vous, votre propriétaire n'est pas au courant que vous soulouez vos terres en belge?
Ben non, du moment qu'il reçoit son fermage, tout le monde est content.
Voilà pour l'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater, que vous pouvez retrouver également sur europe1.fr avec le podcast de la matinale et tous les reportages que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux tout au long de la journée. Merci à toutes les équipes de la rédaction, technique également. Merci à vous de votre fidélité, prenez soin de vous. Tout de suite, François Claus pour le tour de la question, ça commence dans quelques secondes. Parlez-vous des langues étrangères? Ça c'est le grand débat de ce matin jusqu'à 10h. Céline Dacosta, je vous embrasse.
Moi aussi, Nico,
je vous embrasse
demain.
Aussi, ma chère Julie.
Et pour le tour de la question, vous pouvez appeler dès maintenant au 3921.